grâce à une belle affiche que j'ai vue en direct, merci à celui qui est le concepteur, hein, n'est-ce pas, hein. Donc, je vais vous faire une première partie, grosso modo, de 20 minutes, à peu près, sur ce qu'est la fondation, la trisomie, les grandes lignes, et la recherche sur la trisomie 21. Donc, allons-y. La fondation repose sur des donateurs. C'est tout bête. Il y a combien de donateurs? L'année dernière, combien on a reçu d'argent grâce à ces donateurs? Où ça va, grosso modo? Ça, c'est important. Quelles que soient les associations ou fondations, demandez toujours un résumé. Je pense que c'est important. S'il y a une incertitude sur l'utilité des fonds, vous avez plein d'autres associations pour y rentrer, les aider ou être généreux avec eux. Voilà. Donc, il y a 90 000 donateurs à peu près. C'est beaucoup et c'est peu, on verra. Et il y a eu récolté, grâce à leur générosité, à peu près 9 millions d'euros. J'ai arrondi les chiffres. Comme ça, vous voyez que le don moyen par an, c'est 100 euros. Voilà. Cette fondation Jérôme Lejeune a été créée en 1995, un an après la mort d'un monsieur qui s'appelle Jérôme Lejeune. Je vais un peu en parler, mais si vous avez ce livre, il est voilà, écrit par Anne Bernet, qui est une historienne. Il est très bien fait. Et cette dame est restée presque un an chez Madame Lejeune, qui habite pas très loin dans le 5e rue Galande, hein, qui m'a raccompagné ce soir, que j'ai raccompagné jusque chez elle avant de venir ici, que je vois quasiment tous les jours, Madame Lejeune étant la veuve du professeur Lejeune. Donc cette fondation a été créée un an après la mort de ce monsieur, qui est mort donc le 3 avril 1994. Fondée par essentiellement des membres de sa famille et des amis. Pour faire une fondation, concrètement, il faut avoir des fonds, fondation. Pour faire une association, on peut en faire, il suffit d'être deux ou trois, je ne sais pas. Pour les juristes, ils sont là. C'est vous les juristes?
C'est moi.
C'est vous. Oui. Comment on fait pour faire une association? On va, on paye 35 euros à la préfecture et on dépose des statuts. Et 35 euros, et après, on attend que l'apparition au journal officiel. Une association a donc des statuts, c'est-à-dire à quoi elle sert. On peut par exemple monter une association pour fêter le 14 juillet 2016. Donc, ce qui veut dire qu'après le 14 juillet, on solde les comptes, on arrête l'association. Une fondation doit avoir des statuts très longs dans le temps. Hein? Donc les statuts de la fondation Jérôme Lejeune, c'est poursuivre l'œuvre du professeur Lejeune. Deux points. L'accueil et le soin de des personnes atteintes de trisomie 21, dont la vie était respectée de leur conception à leur mort, la première phrase, et la recherche médicale sur les maladies génétiques et les maladies d'intelligence. Donc j'ai résumé ça à les statuts, à la recherche sur les maladies génétiques de l'intelligence, et les trois verbes qui définissent la fondation, c'est chercher, soigner et défendre. Une partie des 9 millions, c'est-à-dire à peu près 3 millions, 5, 4 millions, vont financer des programmes de recherche de scientifiques qui sont dans le monde entier, en France, à l'étranger, etc. Un conseil scientifique se réunit, il est la semaine prochaine, il y en a deux par an. Donc les scientifiques ont envoyé leur dossier pour avoir des subventions que pouvoir leur donner grâce aux donateurs. Donc on a toutes sortes de nationalités. Depuis 2 ans, on a des Chinois, donc c'est tout nouveau. On a des Indiens depuis 5 ans. On attend que l'Afrique se réveille. J'espère que dans les années à venir, il y aura aussi l'Afrique qui va sortir en programme scientifique. 50 à 100 programmes de recherche, qui dépend la subvention qu'on leur donne, sont financés. Et depuis le début de la Fondation Lejeune en 1995, c'est à peu près 600 programmes de recherche qui ont été financés dans le monde. Donc, demain, si vous êtes chercheur, envoyez avant telle date, ça se fait en ligne, en disant, voilà, je voudrais 20 000, 30 000, 50 000 euros, voilà, pour chercher sur le gène, je ne sais pas quoi, sur le modèle souris, sur... voilà, c'est très pointu, et la plupart du temps, ça se fait en anglais scientifique. J'avoue que les titres de recherche, je comprends un mot sur 10. Parce que je ne suis pas médecin ni scientifique, de ce niveau. Grosso modo, 3,5 millions vont aussi à une consultation médicale spécialisée qui s'appelle l'Institut Jérôme Lejeune. C'est une entité à part, créée en 1996, directement après la Fondation Lejeune, qui regroupe aujourd'hui 12 médecins, 3 infirmières, il y a 2 psychologues, une psychiatre, il y avait une diététicienne, qui fait la diététique là, qui est plus là, peut-être qu'un jour il en aura une autre, ça, on ne sait pas, une orthophoniste, voilà, donc ça c'est l'équipe médicale, et qui, donc spécialisée sur ces maladies-là, la plus connue étant la trisomie 21.
Yann, tu étais justement là.
Voilà, c'est bon.
Yann, c'est là que tu étais aujourd'hui.
C'est ça.
À quel endroit?
Alors, si je suis à l'air.
Ben, et tu m'as pas vu?
Mais non.
Et ben alors? Faut me demander.
J'étais là avec le docteur Clotilde.
Mircher, ah ben oui, Clotilde, oui. Que j'ai salué tout à l'heure. Avant de partir, je lui ai dit au revoir, voilà. Donc, Clotilde Mircher, que tu as vu, le docteur Aimé Ravel, étaient des élèves de Jérôme Lejeune, à Necker. Voilà. Et il y a la collaboratrice de Jérôme Lejeune, qui était avec lui au moment de la découverte de la trisomie 21, parce que c'est pour ça qu'il est connu, à Necker, qui s'appelle le professeur Marie-Odile Rétoré, qui est toujours là et qui a 88 ans. Elle est à la retraite. Elle a une journée et demie de consultation. Mais elle est très occupée. Donc, ici, cette consultation, c'est à peu près 6600 patients atteints de trisomie 21 qui ont leur dossier médical sur place. C'est pas mal comme patientèle, n'est-ce pas? Voilà. En réalité, il y a 7000 et un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des personnes atteintes de trisomie 21 qui viennent. Il y a les syndromes de l'X fragile, maladie du cri du chat, il y a toute une liste impressionnante de gens qui viennent. Vous voyez apparaître recherche ici, et oui, c'est de la recherche clinique qui se fait sur place, parce qu'effectivement, y a des idées qui sortent directement de programmes scientifiques qui vont pouvoir passer sur la partie recherche clinique. Alors la recherche clinique, vous savez que c'est très encadré, ce ne sont pas des cobayes, les patients. Il faut faire ça de façon, c'est très normé, il faut faire ça avec l'accord des patients ou de leurs parents, avec l'accord du ministère de la Santé, enfin c'est hyper encadré, et malgré ça, de temps en temps, les essais cliniques, vous avez vu qu'à Rennes, il y a eu un problème. Bon, on n'a jamais eu de problème, touchons du bois. Voilà. Et vous voyez un petit laboratoire, le petit parce qu'il tiendrait ici, c'est un P2 pour ceux qui connaissent les normes de laboratoire, qui fait quoi? Il fait essentiellement deux choses, de l'analyse ADN de patients, avec l'autorisation bien sûr, une banque de cellules, donc c'est un CRB, un centre de ressources biologiques, une banque de cellules de personnes, des patients. Pourquoi? Parce que ces cellules qui vont être ici techniquées, c'est à partir des globules blancs, prise de sang, etc., centrifugeuse, vous connaissez ça mieux que moi, on met un virus, on les triture pour que ça devienne des lignées cellulaires, des cellules qui ne fassent que se reproduire. Et après, on les congèle. Donc voilà, ça c'est ce laboratoire qui fait donc le CRB. CRB a un nom qui s'appelle Biogel. Et donc ces cellules sont disponibles pour les chercheurs qui sont ici, qui eux ont des laboratoires, mais n'ont pas de patients. Voilà. Donc on va insister un peu là-dessus. La dernière partie est sur la partie défendre. C'est le plaidoyer pour ces personnes. Avec un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle génétique.org. C'est le premier site de bioéthique en français qui est en ligne depuis 2000. Donc vous avez tout un historique. Tous les jours, vous avez une revue de presse gratuite qui est faite aussi bien, je ne sais pas, Libération, Figaro, que Nature, Science, Quotidien du médecin, etc. Chaque fois qu'il y a un article de bioéthique, il est sélectionné ou pas, et puis après, il y a un résumé. Et une fois par mois, il y a une synthèse. C'est-à-dire, il y a la génétique donne son avis. Sinon, quand elle résume un article, eh ben, elle résume l'article. Même s'il y a une note de la rédaction, si l'article est à fond pour, je sais pas, la recherche sur l'embryon, ben, ça va pas changer le sens de l'article. Plaidoyer, ben oui, il faut défendre ces personnes. La meilleure façon de les défendre, c'est de trouver une solution à leur maladie. Donc, et avant de le trouver, eh ben, il faut dire que c'est possible. Donc, ce soir, vous allez sortir d'ici en disant, on a vu un monsieur qui nous a dit que demain, il allait avoir un traitement pour la trisomie 21. Oui, on va voir comment. Le seul truc, c'est quand. Alors, je serais venu vous voir avant 2008, c'était une conviction. Là, c'est une affirmation, c'est juste une question de temps. Avant, c'était... Oui, on va trouver. Oui, on cherche. Mais là, non seulement on cherche, mais on en est aux essais cliniques. Voilà. Et quand, en ce moment, à l'Institut Jérôme Lejeune, il y a 11 essais cliniques. Clotilde Mircher, que vous avez vu, elle s'en occupe de deux. Elle s'occupe de deux. Un qui s'appelle Actif, je ne sais pas si vous avez vu sur sa porte.
J'ai parlé de
Roche. De Roche. Ben, c'est un essai.
C'est
un essai clinique. Roche. Et là, c'est extraordinaire, c'est que Roche est un laboratoire, donc c'est le laboratoire qui est venu nous chercher en disant on voudrait que vous utilisiez telle molécule, je ne sais pas son nom de XB18, enfin c'est un nom de code, hein, et on voudrait tel type de patient, de tel âge, de tel truc, etc. Et donc il faut un essai multisite, parce que c'est sur plusieurs sites dans le monde, et donc là, pour le coup, ils financent la totalité ou presque. Hein? Non, bravo, oui.
Combien de personnes sont concernées par, par ce traitement-là, puisque pour que Roche, qui est quand même un gros laboratoire privé, s'intéresse à ça, c'est qu'il y a de l'argent à faire.
On va voir. Mais il y a une raison, je pense, c'est que un de ceux qui s'occupent de la recherche clinique chez Roche a un lien avec la trisomie. Je ne sais pas si c'est sa fille ou sa sœur qui est trisomique. Voilà. Alors on continue. Nous portons un drôle de nom. Jérôme Lejeune, qui c'était? Donc ce monsieur, vous le voyez ici. Alors, ben, ça tombe bien, j'ai plein de scientifiques ici. Vous voyez ici le cycle de la méthionine. Vous connaissez tous par cœur, à part la juriste qui ne le connaît pas, puis elle s'en va. Mais sinon, hein, ou presque. Hein. Et donc, vous voyez Jérôme Lejeune en train de faire une conférence, d'ailleurs, on ne le voit pas bien, le 27 novembre 1992, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. Mais surtout parce que cette photo a permis de démarrer un programme de recherche sur une idée du professeur Lejeune, parce que ici, vous voyez la sérine homocystéine, méthionine, et folate, c'est l'acide folique. Il a essayé ça en essai clinique, et le docteur Mircher continue un essai avec, en associant l'acide folique et la thyroxine, en ce moment. Vous voyez ici SAM, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est certainement quelque chose qu'il a essayé. Peters, c'est le nom d'une femme chercheuse américaine qu'il connaissait. Et ici, vous avez trois flèches, 21+. Et j'étais en train de scanner cette photo, qui est une photo papier, quand le docteur Bléau, qui est parti à la retraite depuis, me dit « Attends, va voir. » J'ai dit « Non, mais il est moche, là, on ne le voit pas, Jérôme Lejeune. » Enfin, pour présenter Jérôme Lejeune, c'est pas terrible, cette photo. « Si, regarde, c'est très important. C'est là qu'il faut chercher. » J'ai commencé là. « Mais oui, trois flèches plus 21, il faut chercher là. » Tu vois, la sérine, l'homocystéine, la cystéine, c'est là. Et regarde, il nous le dit, il nous le montre, il faut chercher là. Ah, j'ai dit oui, et alors, parmi tous les chercheurs qu'on finance, il n'y en a pas un qui cherche là. Pas un. Donc il faudrait démarrer un programme de recherche. Mais il n'y en a pas de laboratoire. Non, mais il faut, moi je connais des gens, hein, il va faire un bout, l'autre il va faire... Et comme ça qu'a démarré un programme de recherche, j'allais dire interne, lancé par la Fondation Lejeune, où on a non pas subventionné, mais payé la totalité. Et je vais vous en parler tout à l'heure, de façon très imagée, et vous qui êtes pointu et qui êtes des scientifiques, reprenez-moi si je dis des bêtises, mais je vais faire des comparaisons qui vont vous sembler toutes bébêtes. Mais pourquoi? Parce que je présente aussi ce programme de recherche à des gens qui ne sont pas du tout scientifiques. Et j'essaye de leur faire comprendre. Donc si vous avez des astuces supplémentaires, en disant, tiens, présentez ça comme ça pour que ça soit encore plus accessible à ces gens-là, j'accepte volontiers. Donc voilà, ce monsieur, c'était qui? Ben, c'était un médecin, généticien, biochimiste, géométrie dans l'espace, arbre bricolage. Donc, des dons hors du commun. Enfin, oui, ben, je vous signale que vous avez tous des dons hors du commun. Hein. Enfin, du moins, j'espère, hein, mais il n'y a pas de problème. Hein. Vous inquiétez pas, il était comme tout le monde. Qui est interne? C'est mademoiselle qui est interne. Vous avez passé donc au début un concours, hein, la première année, où on fait que ça. Et pour faire son internat, qu'est-ce qu'on fait? Que ça. Oui, FM2, oui. L'internat, vous l'avez présenté. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on présente le concours de l'internat? Eh bien, on fait que bosser pour son concours, non?
Oui.
Eh bien, lui, c'est ce qu'il a fait. Sauf que le jour du concours, il s'est trompé de sens dans le métro, il est arrivé, la porte était fermée. Un peu dans la lune, hein? Comme ça, hein. Donc on le présente souvent et dans du commun. Enfin, il était, n'inquiétez pas. Hein, et, voilà. Donc ce monsieur découvre la première maladie génétique au monde. C'est pour ça qu'il est reconnu par ses pairs. Il avait 33 ans. En janvier 59, donc il découvre en 58, en janvier 59 est publié dans le journal, je ne sais plus lequel, mais il y a tout dans le bouquin, scientifique. Publication, donc découverte de la trisomie 21, c'est lui qui donne le nom, trisomie, 3 chromosomes sur la paire 21, il y a d'autres trisomies, hein, ça veut dire 3 chromosomes sur les autres paires, et il fait le lien entre ce chromosome et les patients qu'il avait à Trousseau, qui étaient des Mongoliens. Il était donc jeune médecin, 33 ans, c'est jeune pour un médecin 33 ans? Oui. Voilà. Il était jeune papa aussi, etc. Et il était sous les ordres du professeur Turpin, qui avait toute une équipe, et le professeur Turpin avait confié des patients mongoliens. Et donc, comme on était dans les années 50, 55, 58, etc., c'est le moment où on découvre l'ADN, ou tout ça, donc... une stagiaire ramène des États-Unis technique de coloration des chromosomes. Il arrive à compter les chromosomes, donc il essaye tout ça, et puis il dit, tiens, si j'essayais sur mes patients, avec le professeur Turpin, il dit, ben oui, pourquoi pas, hein? Et donc, les patients ayant une déficience intellectuelle, il dit, bon, on va compter les chromosomes, et peut-être qu'on va en trouver un en moins, puisque c'est une déficience. Et ben, c'était un en plus. Donc ils ont cru au départ qu'ils s'étaient vraiment trompés. Pourquoi il y en a un en plus? C'est bizarre. Mais non, c'est pas un en plus, il faut recompter, ça va pas, enfin, etc. C'est ce qui a dû certainement se passer. Donc la découverte est signée de 3 personnes. Jérôme Lejeune, Marthe Gauthier, celle qui a apporté les techniques de coloration, et Raymond Turpin, qui était le professeur Turpin, le chef de service. Voilà. Il en découvre 30 autres maladies. Mais la première maladie génétique au monde, c'est celle-là. C'est incroyable. Enfin, moi, je trouve un Français qui fait une première mondiale. Du coup, ben, il se retrouve une star mondiale de la science. Vous connaissez... Oui, j'ai des scientifiques. Une star mondiale de la science d'aujourd'hui, non? Ce n'est pas un oncle? Ma sœur, oui? Qui?
Hawking.
Hawking, si vous voulez. Je ne le connais pas, mais certainement, il travaille sur quoi? Astrophysicien, oui, je veux bien. J'ai pas celui qui a découvert le virus du sida en français. Professeur Montagnier. Montagnier. Bon, Montagnier, voilà.
Oui,
Montagnier.
Il déconne
maintenant. Ben, il déconne, mais... voilà. Je sais pas, vous avez ceux qui ont fait la première fécondation in vitro, même si c'est pas une gloire, forcément. Testard. Vous avez, je sais pas. Bon, et dans les gloires de scientifiques du... passé, Jérôme Lejeune, mais un et d'autres. Ah, des gloires scientifiques, non? Des stars de la science. Pasteur, non? Einstein, voilà. Eh bien, d'un seul coup, à 33 ans, il passe avec ce statut-là. Il est invité partout. Il est... il n'y a pas beaucoup de chaînes de radio, de télé, etc., mais partout. Il allait dans telle université et sortait avec le diplôme, quoi. Parce qu'il était venu, enfin, c'était la star. En plus... jeune, etc. C'était incroyable. Et donc, de 60 à 70, c'était la star. Il fallait être dans l'équipe le jeune. Il devient professeur, alors qu'il n'a pas eu son internat.
la première chaire de cytogénétique à la faculté de médecine, on lui dit, mais il faut... Allez, c'est incroyable, quoi, c'est ce qui s'est passé. Et c'est logique, si vous faites une première mondiale, une découverte, eh ben, vous allez être, je pense, dans le même cas que lui. Après, eh ben, après 70, c'est différent, c'est la politique qui est derrière, qui a changé. Mais 68 est passé par là, la loi Veil arrive, et chacun dans la société française doit se positionner. Très clairement. Et lui, ce qui le fait basculer, c'est autre chose, c'est le DPL. Dans les années 70, est inventée une technique qui est l'amniosynthèse, que vous connaissez, hein, c'est une, qui permet d'aller chercher dans le liquide amniotique, donc dans le ventre de la mère, des cellules de l'enfant dans le liquide, et de faire un caryotype, de compter le nombre de chromosomes, et de voir si l'enfant est trisomique ou pas. Et là, il dit, mais c'est incroyable. Ils se servent de ma découverte pour démasquer ceux qui sont tranquilles dans le ventre de leur mère. Donc, et ça le retourne. Et il fait un fameux discours lors du je sais pas quoi Award à San Francisco. Il reçoit le plus grand prix de génétique. Et au lieu de faire son speech sur la trisomie 21, sa découverte, etc., il fait ça sur la partie DPN et autres. Il dit, mais vous, aux États-Unis, vous avez l'Institut National de la Santé, Institute National of Health, il faut inventer maintenant l'Institut National de la Mort, l'Institut National of Death. Et oui, parce que vous allez demander aux généticiens qui vont recevoir les échantillons de la myosynthèse de dire... Il est trisomique, enfin, cet échantillon présente une trisomie, et après je m'en lave les mains. Ah non, moi je ne suis pas Ponce Pilate, c'est ce qu'il explique. Et donc, d'un seul coup, devant les 300 meilleurs généticiens mondiaux, c'est un tollé. Une partie fait oh comme ça, et les autres le siffle. Et il repart dans l'avion, il écrit à sa femme parce qu'il écrivait quasiment tous les jours, je pense que je n'aurai jamais le Nobel. Par cette position-là, qui va défendre après tout le temps. On n'a pas résolu la trisomie 21 en ne faisant pas naître les personnes porteuses de trisomie. La vraie solution passe par un traitement. Et d'ailleurs, il y a des petits films de l'ORTF, ou je ne sais pas où, ça s'appelait l'ORTF, avant la seule chaîne de télé française. Donc il était filmé avec son visage de jeune médecin en disant « Oui, j'ai découvert le lien entre le chromosome surnuméraire et la maladie. Maintenant, j'ai trouvé la cause, il faut trouver le remède. » Avant, on disait le remède, on ne disait pas le traitement ou le médicament, on disait le remède. Il le dit d'entrée. Et d'ailleurs, il a de cesse que d'essayer de trouver ça. Et ça va s'accélérer à partir des années 70, parce que c'est une course-poursuite. Le diagnostic arrive et le médicament n'est toujours pas là. Et il meurt en 94 sans avoir trouvé la moindre voie. Il a essayé, le fameux méthionine, etc. Il a essayé le folate, il a essayé. Mais il a essayé avec ses petits moyens. Et puis, parce que dès qu'il s'est retrouvé positionné pour la vie, c'est-à-dire en disant, moi je suis généticien, je vous dis que la vie commence au moment où le patrimoine génétique du père et de la mère sont dans la même cellule, je ne peux pas dire autre chose. Et donc, dans la société française, clairement, c'était un des référents scientifiques de ceux qui étaient contre l'avortement. Et bien, d'un seul coup, ben, tous ces crédits de fonctionnement coupés, etc., et puis les uns derrière les autres, ces collaborateurs sont partis, sauf quelques-uns, qui sont aujourd'hui à la Fondation Lejeune, enfin, l'Institut Jérôme Lejeune. Donc oui, aujourd'hui, vous voyez, 96% des enfants diagnostiqués trisomiques ne naissent pas, parce que la grossesse est arrêtée. 96%. Et il y a eu, il y a 2 ans, un député français, parce qu'il parlait de ce chiffre-là de 96% des enfants trisomiques ne naissent pas, et il a dit, devant tout le monde à l'Assemblée, mais pourquoi il en reste encore 4%? Imaginez les coups de fil chez nous, en disant, mais c'est pas possible, vous avez vu ce qu'il a dit, etc., défendez-nous. Jérôme Lejeune a eu des témoignages dans ses consultations parce qu'ils le sentent. Quand il y a eu la loi Perret, avant la loi Veil, c'était uniquement focalisé sur les personnes handicapées. La loi Perret devait permettre, quand il y avait un diagnostic d'une maladie particulièrement grave, de pratiquer une IVG, qui n'était pas encore, enfin une IMG, qui n'était pas encore dans la loi Veil, puisqu'elle n'était pas là, la loi Veil. Elle n'était pas encore faite. Et dans ses patients, il y en a un petit qui s'est. Enfin, un petit, genre 15 ans, qui est dans ses bras et il dit professeur, ils veulent tous nous tuer. Donc, vous comprenez parfaitement. Voilà, et ben, le traitement sur la trisomie 21, j'espère, va arriver bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est que la trisomie 21 ? 2009, c'était le 50e anniversaire de la découverte. Vous voyez les noms, j'en ai parlé. 2014, ben, c'était l'anniversaire, le 10e anniversaire, de, pardon, le 20e anniversaire de la mort de Jérôme Lejeune. 2015, 20e anniversaire de la Fondation. Mais cette année, 2007, c'est le 21e pour la trisomie 21, c'est sympa, si j'aurais pu rajouter ça. En 2008, Jérôme Lejeune a eu un prix scientifique. Il y a eu une soirée qui s'appelle les Victoires de la médecine. Chaque année, nous avons la victoire de la musique. C'est peut-être... vous connaissez, mais là, c'est victoire de la médecine, c'est pas chaque année. Et donc, il y avait 15 trophées qui étaient donnés aux 15 plus belles découvertes des 50 dernières années. Jérôme Lejeune en a eu une. Professeur Montagny en a eu une, d'ailleurs, ce soir-là. Donc, par ses pairs, les scientifiques peuvent pas dire autre chose que oui, c'est une découverte majeure. Mais il est complètement mis de côté. Voilà. Alors, la trisomie 21, combien il y a de trisomiques en France? 66 000. Chaque jour en France, il y a au moins une personne trisomique qui naît avec la trisomie, même s'il y a le diagnostic prénatal. Donc, c'est entre 400 et 500 bébés, il y a une trisomie qui arrive par an, qui naissent. La prévalence, ça c'est le terme médical, hein, vous connaissez ça, c'est une conception sur 700. Donc, vous avez le marché. La question sur Roche. Une personne, une conception sur 700, c'est pas forcément une naissance, puisque maintenant qu'il y a le diagnostic, c'est beaucoup moins. Voilà le marché mondial. C'est la même proportion partout dans le monde. Il n'y a pas plus de Mongoliens en Mongolie que de... Vous voyez ce que je veux dire? La proportion est la même. Voilà.
Mais enfin, avec l'IMG,
oui, l'interruption médicale de grossesse.
Ou l'ITG. Enfin, c'est...
Ah oui, moi je vais vous montrer les chiffres. Mais ça, c'est qu'en France, cher monsieur. Vous allez en Afrique, il n'y a pas. Vous allez même aux États-Unis, ce n'est pas de la même façon, parce que ce n'est pas remboursé, ce n'est pas, etc. C'est une médecine complètement autre. D'accord? Donc c'est pas le taux français. Hein. Et pourquoi la Fondation est vent debout, je dis pas hurle parce qu'on ne nous entend pas beaucoup malheureusement, mais est à défendre? Parce que nous on dénonce une politique d'État, que ce soit de droite, de gauche, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. C'est comme si l'État organisait la chasse aux trisomiques. C'est un peu dur comme mot, mais c'est ça. Vous devez déclarer votre grossesse, vous devez... Bon, je ne sais plus si c'est pas devenu obligatoire, au moins 3 examens. Qui peut me répondre, là, les médecins? Non, je ne sais pas. Pendant la grossesse, les examens bon, sont tous gratuits, remboursés, 100%, enfin, etc. Mais ils sont obligatoires ou pas? C'est plus obligatoire. Mais à un moment, ça l'était, ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, donc, vous êtes dans les rails, et puis la plupart du temps, vous n'êtes pas en mesure de... Sauf si vous êtes médecin, d'y voir clair. C'est une la grossesse est devenue quelque chose de terriblement anxiogène. Alors qu'une femme porte la vie, on va lui mettre toutes sortes de diagnostics, de recherches, de tout ce qu'on veut. Laisser cette grossesse se dérouler sereinement. Ce qui est curieux, c'est que, de l'autre côté, on sait que, par exemple, l'enfant entend la musique qu'écoutent ses parents, la voix de son père, s'il est là, enfin, etc., vous voyez, parce qu'on sait que les sons passent à travers, qu'il est sensible, etc. Mais vous ne croyez pas qu'il est sensible à l'anxiété de la maman qui va avoir tel examen, tel truc, quand on dit « attention, il ne faut pas manger tel truc, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas cela », c'est hyper médicalisé. Pas, je vais dire, ça fait une génération, pas plus. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. Avant, alors vous allez me dire, oui, mais avant il y avait une mortalité infantile très forte. Oui, il faut remonter quand même 100 ans avant, quoi, pour le coup. Vous voyez?
problème, c'est qu'on veut tout contrôler maintenant.
Exactement.
Et on veut bientôt, je pense qu'on arrivera à faire des yeux sur le fond, etc.
Exactement. Le débat de société, vous êtes en plein dedans, mais le fer de lance, c'est trisomique. Parce qu'ils sont repérés tout de suite, le chromosome de plus a permis de faire ça bien avant que les techniques qui arrivent aujourd'hui. Mais ça y est, ça arrive. Le prénatest, le fameux prénatest arrive là. Hein, 150 maladies au moins diagnostiquées avant la naissance. On continue. Donc voilà le marché, jeune homme. Une maladie rare, c'est la prévalence, c'est 1 sur 2000. Là, on est à 1 sur 700. Or, voici après un article de Libération que j'ai trouvé, que je vous ai mis. Cet article date d'avril 2014. Donc c'est Libération. Hein. J'ai pris les chiffres de Libération. Les chiffres de Libération, c'est les chiffres jaunes. Hein. Dans cet article, il dit 2300 cas de trisomie tous les ans. Mais monsieur Roubaud, vous n'avez pas mis vos compteurs à jour, vous parlez de 500 naissances. Oui, il y a bien 530 naissances. Mais il y a 2300 cas. Parce que avant les interruptions médicales de grossesse, aujourd'hui l'agence de biomédecine répertorie les causes. Avant on n'avait pas ces chiffres-là, maintenant on les a. Donc vous posez la question, quelle est la différence et quelle est l'action du diagnostic prénatal, et bien vous l'avez là. Alors là, si vous regardez les chiffres, vous allez dire, attendez, mais monsieur Roubaud, mais vous ne savez pas calculer, parce que 530, ce n'est pas 4% de 2300. Vous êtes trompé dans vos chiffres. Non, je ne me suis pas trompé, parce que c'est Libération qui les donne. Dans les 530, vous avez toute une partie des enfants qui ne sont pas diagnostiqués et qui sont trisomiques. D'accord ? Plus les 4% qui ont été diagnostiqués et qui sont, dire, qui passent à travers les mailles du filet. Voilà. Les biologistes, quand ils regardent l'échographie avec nuque épaisse, la taille du fémur, etc., il y a toute plein de critères, ils rendent un avis qui est un pourcentage de risque. Vous avez tant de chances sur X que votre enfant soit atteint de trisomie 21. C'est pas oui, non. Par contre, à la myosynthèse, c'est oui, non. Hein, puisque le chromosome, ils l'ont vu en plus. Donc c'est oui, il a un chromosome de plus, ou non, il ne l'a pas. Alors qu'avant, l'étape d'avant, ben, c'est juste un pourcentage. Mais quand vous êtes en plein dans cette démarche-là, quand on dit que vous avez X chances sur 100 de le faire, vous comprenez, il est trisomique. Vous voyez ? Et à ce moment-là, au moment de l'échographie, eh ben, vous avez ce qu'on appelle les faux négatifs. C'est-à-dire ceux qui n'ont aucun signe, et donc ils ne vont même pas après la myosynthèse. Tout va bien, paf, et puis il est trisomique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ces chiffres-là. Alors après, je me suis mis ici pour vous, j'ai dit, bon, grosso modo, combien y a de grossesses en France et combien de naissances? C'est à peu près cet ordre de grandeur. Il y a 1 million de grossesses en France, 800 000 naissances. Alors quand on dit, tiens, la mortalité infantile, il y a un siècle ou deux, était très importante, ben, est-ce que ça, c'est pas la mortalité infantile? Non, c'est la loi Veil, hein, la différence. Voilà pour les chiffres, je continue. Un petit point sur la trisomie, ben, 3 chromosomes au lieu de 2, c'est tri, hein, donc si c'est sur la paire numéro 13, ben, c'est la trisomie 13. Nous, on s'occupe de la 21. Il existe beaucoup de trisomies. Si, au niveau théorique, eh ben, il peut exister toutes les trisomies sur toutes les paires, sauf qu'elles ne sont pas toutes viables. Donc, il y a certainement des trisomies qu'on ne connaît pas, qui n'existent pas, parce que eh ben, ça arrête la croissance de l'enfant très très tôt. Le 21 est un petit chromosome, et donc c'est pour ça que c'est une forme, entre guillemets, viable de trisomie. Il existe aussi l'inverse, hein, la monosomie, c'est-à-dire un chromosome au lieu de deux. La nature est ainsi faite. C'est que, on dit, ben, c'est comme ça, mais il y a toujours quelques cas dans un sens, dans l'autre. C'est ça, la nature. Bon, voilà. Donc, ça entraîne 33% de plus de tout ce qui dépend des gènes sur le chromosome 21. Il y en a à peu près 250-270. C'est 270 gènes qui fonctionnent, sinon il n'y aurait pas de problème. Un peu comme un moteur qui est engorgé par le starter. quand vous faites démarrer votre tondeuse à gazon, il y a le starter, hein, il y a une position spéciale, vous tirez, hop, ça démarre. Mais après, il faut passer dans une autre position, parce que sinon, il s'étouffe. Mais c'est un peu ça. Un bébé trisomique, dans un berceau, et un bébé qui n'est pas trisomique, il n'y a pas grande différence. Ils ont déjà quelques différences, mais pas grande différence. Mais après, quand on va grandir, eh ben, les différences vont se faire, vont se voir, vont oui, s'exprimer. Voilà. Tout ça ben, parce qu'il a trop de choses. Donc l'idée, c'est que comme il a trop de choses, eh ben, on va essayer de remettre au bon niveau des choses qui sont en trop. Enlever des choses. Voilà, donc 11 essais cliniques en cours, actifs, donc ça c'est le docteur Mircher, 140 patients de 6 mois à 18 mois, ça c'est la cible. Hein, donc Clématis, donc les laboratoires Roche, dont vous parliez tout à l'heure, voilà. Ça c'est les recherches cliniques concrètes. Je vais laisser le truc, mais vous pouvez prendre en photo, il n'y a pas de problème. Les recherches fondamentales, bien sûr, continuent, 50 programmes par an, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, avec le conseil scientifique. Et il y a des programmes commandés par la Fondation Le Jeune, il y en a deux, et je vous en parle, je vais vous parler rapidement d'un, Cible 21, qui vient directement de la photo que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, le don trouvé en interne, c'est Cible 21, vous reconnaissez les lettres CBS, hein, cystathionine, bêta, synthase, c'est l'enzyme en question qui... voilà. Alors, le programme CBS a pour but de mettre au point un médicament pour traiter la trisomie 21, et le basculement s'est fait en 2008. En 2008, j'ai vécu ce que je pense aurait voulu vivre Jérôme Lejeune, c'est-à-dire le basculement vers le côté thérapeutique, vers le côté essai clinique, vers le côté oui, ça y est, on n'est plus dans le fondamental, ça y est, on bascule vers le. Et ça, c'est magique. Je m'en souviendrai toute ma vie. Une réunion où on est 12 autour de la table, le fameux docteur Bléau, ben, je vous racontais même deux réunions. Première réunion, c'était au mois de juin, avant de partir pendant les vacances d'été, où il y a des gens qui on est un peu moins nombreux, bon, très bien. Réunion, vous savez, quelquefois, ça tourne un peu par en rond, mais ah, les poubelles du second n'ont pas été vidées, enfin, c'est des trucs pas très intéressants. Et d'un seul coup, docteur Bléau dit, regardez, il montre une photo, près de cette taille-là, regardez, ben oui, c'était une fillette qui avait quoi, grosso modo, 12 ans. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est quelqu'un de ta famille? Non, elle est trisomique. Ah bon? Aucun signe. Mais comment tu sais? Ah ben, il travaille sur des dossiers anonymes et il tombe sur un dossier, celui-là, ce dossier de cette patiente qui avait, qui appartenait même pas à l'Institut Jérôme Lejeune. Je ne sais pas où il avait trouvé. Enfin, je ne sais pas où vous trouvez d'ailleurs les dossiers quand vous faites sur l'heure d'études. Bon, enfin voilà. Il trouve ce. Ah bon? Donc, ses parents ne savaient pas qu'elle était trisomique, ses frères et sœurs non plus, ses professeurs, ses amis, personne ne savait qu'elle était trisomique. Comment on sait alors, nous? Ah, mais elle a eu un petit frère, 11 ans après elle, qui lui avait toutes les caractéristiques de la trisomie 21. Ça alors? Donc ils ont fait un karyotype sur la famille, il se trouve qu'elle a 3 chromosomes 21. Ça alors? Ben oui. Ben comment elle a fait? Non, je vous dirai après. Très bien. Je veux que vous compreniez que vous avez devant vous la preuve qu'un traitement est possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir le chromosome 21, mais ne pas l'exprimer. Ah ben oui, c'est bien la preuve. On part en vacances, on revient au mois de septembre. Le programme Cible 21 avait commencé en 2004, et il annonce 3 molécules inhibitrices ont été trouvées. Ça faisait 4 ans qu'on cherchait, on perdait complètement espoir, parce que d'habitude, quand on cherche l'inhibiteur d'une enzyme, on trouve dans l'année qui suit ou dans les 2 ans. Mais 4 ans, on allait d'ailleurs abandonner. Bon, très bien. Bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on va voir. Est-ce que ce sont les futurs médicaments? On n'en sait rien, pour l'instant encore. Hein. Mais je vais vous montrer comment ça s'est passé. Alors vous êtes des pros, ou presque, mais je vais vous montrer deux choses. La carte du chromosome 21, que tous les étudiants de médecine connaissent par cœur, ou presque. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs dans vos études. Hein. Voilà. Cette carte est très compliquée, je n'y comprends rien. Vous, certainement, ça vous dit des choses, mais moi, rien. Hein. Si ce n'est qu'elle a à peu près 250 gènes. La cystathionine bêta-synthase est commandée par un gène qui porte le même nom, CBS, il est là. CBS. D'accord. Ça, c'est des années de recherche pour comprendre ce qui se passe sur le chromosome 21. où est passé, quelle enzyme est commandée par, etc. C'est des années de recherche. Entre autres, financées par la Fondation Le Jeune, mais pas que. Voilà. Donc, cette carte est extrêmement compliquée. Imaginez les chercheurs, donc en blouse blanche, en principe, c'est comme ça, hein, ils essayent de comprendre le chromosome 21, ils cherchent la carte, etc. Donc, je vais vous faire une comparaison toute simple, mais bêta. Hein. Ça, c'est une carte avec 250 gènes. Et bien, voici un autre métier avec une carte, mais avec 250 châteaux. 250 gènes, 250 châteaux. Une carte, là vous êtes un général et vous devez prendre cette région. De l'autre côté, vous êtes un scientifique et vous devez comprendre ce qui se passe sur le chromosome 21. Qu'est-ce qu'on a comme stratégie? Parce que c'est ça qu'il veut définir. Est-ce que là, en militaire, je pars de l'ouest, je vais vers là, petit à petit j'avance et je prends les villes? Est-ce que... Il y a différentes stratégies. Eh bien, c'est pour vous montrer la stratégie qui a été employée sur le chromosome 21. On a essayé de cibler uniquement les gènes qui sont liés au déficit mental, déficit intellectuel. Comme si on ciblait les châteaux stratégiques à prendre, et du coup, toute la région va tomber, puisqu'on s'intéresse au déficit intellectuel. Si le gène de la couleur des yeux, c'est pas si simple, parce que c'est certainement commandé par plusieurs gènes sur plusieurs chromosomes, était sur le chromosome matériel, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. On verra plus tard. On va d'abord s'occuper de ceux qui sont responsables du déficit mental. Parce que ceux-là, ils sont exprimés trois fois. Donc ils fabriquent trois fois les choses, au lieu de deux. Mais on ne va pas pouvoir s'attaquer aux gènes, on va s'attaquer aux conséquences des gènes, aux enzymes, aux protéines, etc., qui sont fabriquées trois fois. Et c'est ça qu'on cherche à inhiber, et c'est ça les inhibiteurs qu'on a trouvés. Bon, alors là, le militaire reporte sur la carte, ça c'est juste pour le fun, et on continue la comparaison. Chaque gène commande pour une ou plusieurs enzymes. Vous voyez la simplification que je fais, chaque château a une ou plusieurs portes. Ouais. Ben on va dire un château, une porte, ou un gène, une enzyme. C'est pas vrai dans la nature, mais pour faire comprendre les choses. Ben ça, donc on va appeler ça le château CDS. On continue, parce qu'on peut continuer la comparaison. Chaque enzyme a une forme dans l'espace. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Une protéine, c'est du 3D, etc. Et en plus, qui bouge. Hein. Parce qu'en fonction de ce qui vient du substrat, etc., c'est bon. Voici l'image de la CDS. Alors, vous allez vous me dire ce que c'est, ces trucs rose et bleu peut-être, parce que moi je ne sais pas. Ça, je sais que c'est un atome carbone, ça va, azote, et ça, j'en sais rien. Mais c'est l'image que m'a donnée le docteur Bleu, il dit, ouais, ça c'est la CDS. Parfait. Mais vous savez peut-être non.
Oui. C'est alpha hélice et bêta strand. Donc, ici, quand il y a plusieurs acides de carbone qui forment une chaîne, ça peut tourner comme ça.
Oui.
Et puis, quand il y a une structure alpha hélice, c'est comme ça.
Ah.
Et quand ça forme quelque chose de plat, ça c'est comme. C'est-à-dire une structure de bêta. Donc, quand il y a des structures, on les montre comme les hélices.
D'accord.
Et quand
d'accord.
Ça, ils sont pas.
Ben voilà, j'aurais appris quelque chose ce soir parce que je ne savais pas. Hein. Donc voilà. La CDS, donc un peu comme. Donc on va chercher un inhibiteur de cette fameuse CDS pour bloquer un tiers, parce qu'elle est fabriquée trois fois, donc il faut en enlever un tiers, pour que ça revienne au niveau 2. Vous voyez? Donc on va chercher quelque chose qui va venir la bloquer, un peu comme une plaie qui rentre dans une serrure. C'est le côté 3D, si vous voulez. Hein? Bon, c'est peut-être pas bloqué, débloqué. La serrure, peut-être pas la bonne image, mais moi j'aime bien parce que on montre bien qu'on va dans un site ou dans un endroit qui a une forme spéciale. L'inhibiteur, c'est ça. Donc, 4 ans après le début, 4 molécules ont été trouvées. Tout à l'heure, j'ai parlé de 3. Une toxique a été tout de suite écartée, elle ne deviendra jamais le médicament. Par contre, elle intéresse aussi les scientifiques pour savoir à quel endroit c'est fixé, qu'est-ce qu'elle a donné comme forme à la CDS, etc. Mais bon, comme ça tue le patient, c'est pas ça qui résoudra le problème. Et là, je vous ai mis la suite. 2010, décembre, 3 autres. 2011, 8 autres. Un dépôt de brevet en 2011. C'est génial, la Fondation n'a plus besoin d'argent, mais on a un brevet avant tout ça. On continue, j'ai pas marqué. Parce que c'est. On ne peut pas le dire, mais il y en a d'autres qui ont été trouvés. Aujourd'hui, on approche le chiffre de 100. Et il y a peut-être un deuxième brevet qui. Non, je dis, bon, c'est tout. Voilà. Et ce brevet rapportera 1 euro à la Fondation. Parce que ce qu'on espère, c'est le donner à un laboratoire comme Roche ou autre, pour qu'il puisse l'exploiter. Nous, on n'est pas un laboratoire. Et ce qu'on veut, c'est que le médicament aille au patient. Vous voyez? C'est ça qui nous importe. Parce qu'on les a tous les jours en consultation. Voilà. Et bien, c'est la première étape qui a été franchie pour la mise au point d'un médicament. Et le château CBS va être ouvert. Je vous ai parlé d'un gène et d'une enzyme. Point. Mais chaque voie de recherche est comme un long tunnel noir dans lequel on s'engage. Et au départ, on se cogne la tête partout. Ce qui change tout, c'est que dans ce tunnel, il y a une petite lumière qui s'est allumée au bout. Ah, on n'est pas arrivé au bout. Le médicament, je ne l'ai pas là. Hein. Mais on sait que ça va aboutir. Ah, sauf si le tunnel s'écroule. Mais a priori, il ne s'écroule pas. Sauf s'il y a des petits pièges de lumière, oui, mais on va les franchir. Voilà ce que je voulais vous montrer, parce que je pense que c'est important. On essaye de le dire un peu partout, mais ça passe pas. Quoi? Vous allez traiter la trisomie 21? Mais laissez ces gens tranquilles. Il y en a qui me disent, mais pourquoi vous voulez à tout prix les transformer? Des éducs spé qui m'ont dit ça. C'est une infection. Or, voici autour de la CBS tous ceux qu'on a payé 100% pour ce qu'on a demandé. Ça va de l'expertise des brevets, etc., avec les noms des gens. Donc, pour avoir la CBS, il faut la synthétiser. Là, on va aux États-Unis ou en Inde. Bonjour, monsieur. Monsieur Krauss, je voudrais, je sais pas, 50 grammes de CBS. Vous avez 50 grammes de CBS? Oui, je vais vous faire ça. 50 000 euros. C'est à peu près le prix. Il y a pas. Après, il faut l'avoir sous forme cristallisée. Tiens, on revoit les mêmes. Il y a des espagnols ou autres. Très bien. C'est à peu près le même genre, hein, de prix. Une fois qu'on l'a, on va donner ça à un laboratoire qui fait ça dans des petits tubes et on essaye dans les screenings. Alors, il y a des screenings qui se font par voie informatique, mais quand on est pour de bon, il faut bien essayer l'inhibiteur avec des bibliothèques. Vous connaissez ça, hein, ces machines avec les trois tubes et on regarde si ça réagit sur l'enzyme, le substrat, etc. L'inhibiteur. Combien on a essayé? Combien finalement on a essayé de clés dans la serrure? Bon, on essaye d'être un peu malin, de ne pas prendre des inhibiteurs qui n'ont aucune chance de marcher. On essaye de, en fonction de la forme, enfin, c'est comme quand on a une serrure, on va prendre une grosse clé comme ça, alors que la serrure est toute petite. On va essayer de. On a essayé 500 000 molécules déjà. Et chaque fois qu'on essaye une molécule, eh bien, il faut. Voilà, 5,5 millions d'euros ont été dépensés. Ils sortent de la poche de nos donateurs, que je remercie vraiment, parce que sinon, on ne pourrait pas le faire. Depuis 2004. Bon, on est en 2016, ça fait finalement pas beaucoup par an, mais il y a des années où on dépense plus, d'autres moins, etc. Voilà. Vous avez des questions? Parce qu'après, on va passer à la bibliothèque. Je veux trois questions pour la trisomie 21, c'est normal, trois d'entre vous. Alors?
Est-ce que c'est prévu de s'attaquer après à d'autres gènes, enfin d'autres protéines et puis enfin, d'autres conséquences cliniques aussi de la trisomie 21, parce qu'il me semble qu'il y a des problèmes cardiaques aussi
Oui, monsieur. Là, c'est une voie. Mais vous avez vu qu'il y a 11 essais cliniques, ils ne sont pas tous sur la CBS, loin de là, parce qu'on n'est pas encore en essais cliniques à la CBS. Donc, il y a eu le même genre de travaux qui ont été faits, et sur d'autres. Donc, oui. Le gène DIRK1A, vous l'avez vu apparaître après CBS, il y a SOD, etc., DIRK1A, là, c'est un chercheur français, alors, je ne sais pas s'il n'est pas juste, non, il n'est pas juste, il s'appelle le professeur Delabarre, qui a mis en évidence que une molécule contenue dans le thé vert a un effet sur DIRK1A. Ils ont commencé en 2009, apparition, etc. Et il y a eu, on en est au troisième essai clinique, deux en Espagne, et là on commence en France. Et là, c'est pas brevetable, puisque c'est dans le très vert. Le GCG, le bigalate, catéchine galate, il suffit de la concentrer, de concentrer le thé vert, etc. Et bien j'ai eu la joie, l'émotion de voir, d'avoir dans mes mains un petit sachet qui ressemble à un sachet de Nesquik individuel. C'était en juin dernier. Il y avait un gros colloque de 3 jours avec les meilleurs mondiaux de la trisomie 21 qui était à l'Institut du cerveau et de la moelle. Et il y avait un petit laboratoire qui s'appelle Grand Fontaine, qui est espagnol, qui avait sur sa table les petits trucs. aromatisés au chocolat, sans gluten parce qu'ils sont intolérants au gluten, etc. Avec des suppléments de vitamines. J'étais comme un fou. J'ai dit, c'est incroyable. Je savais qu'il y avait ce truc sur le terrain, mais je ne savais pas que ça y est, il y avait un petit laboratoire qui s'est intéressé. C'est un laboratoire qui fait, vous savez, les tisanes pour bien dormir, les shampoings magiques pour rendre les cheveux brillants et machin. C'est un laboratoire de bien-être, quoi. La question subsidiaire, je dis, ah, et on fait quoi, la posologie, c'est quoi? Un sachet le matin, un sachet le soir. Ah, mais pas mal. Et c'est cher. Parce que si ça vaut 40 000 euros, ça vaut combien? 40 euros. Je dis 40 euros par jour, par sachet. Non, 40 euros par mois. Bon, bah, écoutez. Voilà. Le médicament, mais pas un médicament, parce que c'est pas, il n'y a pas d'autorisation. C'est pas reconnu comme médicament. La diététicienne, c'est un alicament.
Okay.
Hein, voilà. Il s'appelle Fontup, F-O-N-T-U-P. Si vous allez sur Internet, vous allez certainement le trouver. Et bien moi, ça m'a vraiment ému, parce que c'était la première fois que je voyais quelque chose qui était fait spécialement pour les personnes trisomiques. Parce que si je prends ce truc, Fontup, là, qu'est-ce qui va se passer? Moi ou vous, hein, je ne vois pas de personnes trisomiques ce soir. Et s'il va se passer quoi? Il va remettre au niveau 2 des choses qui sont fabriquées 3 fois. Donc, moi qui suis au niveau 2, il va m'enlever d'un tiers ce que j'ai. Et donc, il va créer un retard, une déficience intellectuelle par manque de bon niveau. Si j'ai des questions, moi, d'élèves de terminale qui devaient passer leur bac. Ah ben ouais, c'est vachement bien, les médicaments qu'on voulait trouver, moi j'en ai besoin pour passer mon bac, ça rend plus intelligent. Oui, j'en veux. Ça va pas marcher chez toi. Voilà. Donc, une question. Deux et trois.
En fait, le donateur, c'est qui? Ce sont les parents, les familles,
les donateurs? On les connaît pas plus que ça, parce que quand ils donnent, ils ne disent pas « je donne parce que je suis une famille ». De temps en temps, ils nous écrivent une lettre, donc on sait qu'il y en a une partie. Je pense que ce sont des gens qui connaissent un peu l'histoire du Jérôme le Jeune, je pense, parce que ça les touche directement. Ce sont des gens qui sont passés par le diagnostic souvent, maintenant, pour les parties les plus jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont entre 30 et 40 ans, voire 50, sont passés par là. Il y a vraiment des histoires incroyables de vie, de gens qui sont passés par des diagnostics incroyables, des situations de vie, et qui après se souviennent. Moi, je croise des femmes qui me disent, pendant des années, je n'ai pas pu croiser sur le même trottoir une personne trisomique. Je dis, pourquoi? Mais parce que je portais un enfant trisomique, et que je ne l'ai pas. Donc, je ne pouvais pas être en face. Et aujourd'hui, ils témoignent dans l'autre sens. Et ça, j'en ai... C'est fort, quoi. Deuxième question. La troisième. Mesdemoiselles, il n'y a que les garçons qui posent des questions, enfin les hommes. Allez. Eh bien, je vais vous donner le secret de la petite fille. La petite fille, qui était, vous savez, tout à l'heure, elle avait bien 3 chromosomes 21. Mais dans son côté unique, le chromosome 21 n'était pas une trisomie donc, libre, complète et homogène, parce que c'est la plupart des trisomies, c'est donc le chromosome complet, libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à quoi que ce soit, à notre chromosome. Là, elle était complète, homogène, mais pas libre. Le chromosome 21 est allé se coller sur un chromosome X. Et vous utilisez qu'un chromosome X sur 2. Et donc, elle utilisait majoritairement le chromosome X qui n'était pas X21. Voilà son secret génétique, j'allais dire de façon naturelle, pas forcé ni rien, on ne peut pas le reproduire et autres. Et le petit garçon, il était X21, pareil. Mais comme il n'avait pas l'autre X, il n'avait que le Y qui est un tout petit chromosome, eh ben, il était X21, donc il avait tous les symptômes de la trisomie 21. Voilà. J'attendrai une autre question, un autre moment de vous, mesdemoiselles. On continue. Donc maintenant, la trisomie 21, vous savez à peu près ce que c'est. Dans la bioéthique, pourquoi nous on est dans la bioéthique? Parce que les trisomiques sont vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure, demain on va diagnostiquer je ne sais pas combien de maladies et autres. Ça y est, pour la trisomie 21, c'est déjà fait, c'est eux qui ouvrent la voie. Hein. Et ça depuis quand même des années. Et il va se passer exactement la même chose pour les autres. On le voit venir, vraiment. J'espère qu'on est l'oiseau de mauvaise augure. Pas parti. Donc, eh ben, je vais vous proposer quelques réflexions bioéthiques, très simples, quelques arguments très simples, parce que dans la conversation, souvent, on a dit, bah, tiens, bah, oui, non, mais ça, c'est parce que tu es catholique, hein, si tu penses ça, parce que, non, mais parce que tu es de tel, je sais pas, groupe de réflexion, ou parti politique, ou quoi. Non, 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 c'est simplement un fait biologique, et après, on voit les choses. Alors, allons-y. Trois clés simples. Parce que je pense que c'est des clés simples qui vont vous permettre de décrypter la bioéthique. Des clés, vous allez voir, je voulais vous donner, c'est des clés fictives, bien entendu, mais sous forme de clés, j'aime bien les clés, hein. J'ai utilisé des clés avant, je les utilise là, pour que vous les ayez tout le temps sur vous, parce qu'il y a quelque chose qui... Enfin, que j'ai quelques cheveux blancs, vous voyez, hein, que ça soit dans l'art, dans plein de choses, c'est... Je sais pas, moi ça s'est passé dans l'art, l'art moderne, entre autres. Un truc, ça représente quoi? J'arrive pas à rentrer dedans, c'est moche, je sais pas quoi, enfin, c'est ce que je dis. Et la grande réponse, on me pose la main sur l'épaule. Non, tu peux pas comprendre. C'est trop difficile, tu peux pas, comprendre. D'accord, ok, je veux bien pas comprendre. Mais là, souvent, on vous dit, non, non, la bioéthique, non, c'est très très compliqué, on peut pas comprendre, etc. Laissez les spécialistes. Non, non, parce que nous avons à le vivre. Donc, il faut avoir des clés claires et se poser les bonnes questions. Après, les réponses aux questions, c'est vous qui les avez. Mais au moins, se poser les questions. Parce que quand vous croisez, je vais donner un exemple d'un couple qui est ne pouvant pas avoir d'enfant, et c'est une réelle souffrance, etc., sont passés par la fécondation in vitro, apprennent après qu'il y a eu 14 fécondations, donc 14, entre guillemets, enfants, etc. Et mais c'est pas possible, on ne l'avait pas dit. On ne s'est jamais posé la question, jamais. Bien sûr qu'ils sont contents d'avoir leur fille. Mais, vous voyez, posez-vous la question. Après, les réponses que vous apportez, ben, chacun est libre. J'espère. Par contre, si c'est dicté par un autre, les réponses, il ben, faut se méfier. Que ce soit l'État, que ce soit... peu importe. Alors, allons-y. La vie, qu'est-ce que c'est? C'est difficile à définir. Voici quelques réflexions. Impossible à créer. Disons, bon, c'est pas vrai, puisqu'on est là, on est vivant. Hein. Impossible à créer dans le sens où... vous les scientifiques, vous savez très bien, on est capable, avec les instruments aujourd'hui, de savoir exactement notre composition. C'est quoi votre prénom?
Comment?
Votre prénom?
Flore.
Flore. On peut prendre un appareil et dire, voilà, on va savoir exactement la composition de Flore, le nombre d'atomes, de carbone, d'azote, les oligo-éléments, etc., etc. Je mets tous ces éléments-là, que je connais par cœur, parce que j'ai un appareil très, très puissant, et je les mets dans une bonbonne là. Exactement les mêmes compositions, même proportion et tout. Là. Je vais même les mettre à 37 degrés. Je vais l'éclairer. Je vais chanter une berceuse. Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'elle va sortir du bocal? Ben non. Et pourtant, il y a tous les constituants. Donc la vie, elle vient d'autre chose. Elle vient de deux cellules vivantes, une apportée par mon père, une apportée par ma mère. C'est simple, hein? Voilà. Ça, c'est une réflexion bête de l'idée. Voilà. Donc, s'il y a toutes les conditions, ben, il n'y a pas de vie. Il y a une fin, ben, c'est notre mort. Mais finalement, il y a cette étincelle de vie qui se transmet. Voilà. Donc c'est cette idée de transmission que j'aime bien et que je pense qu'il faut penser à cette idée de transmission. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure ce que j'étais en train de vivre, et bien je suis en plein dedans, quoi. Alors, Capucine, ça c'est la petite fille du docteur Bléau, qui a bien grandi, parce qu'aujourd'hui elle doit avoir 14 ans. Hein, et la création et l'évolution, c'est peut-être un très bon sujet, mais je ne vais pas en parler ce soir. Mais de temps en temps, vous allez voir que la génétique moderne vient mettre des barrières à l'endroit où la théorie de l'évolution, encore aujourd'hui, est prise comme argent comptant.
Alors on y va. Si je vous dis bonjour ou bonsoir, de cette façon-là, est-ce que tout le monde me comprend? Je pose cette question parce que j'ai raconté tout à l'heure à la sœur que je me suis retrouvé il y a un mois et demi devant Mouvement Chrétien des Retraités, MCR. Donc j'avais que des cheveux blancs, beaucoup plus blancs que les miens. C'était 70. Et je dis bonjour au XX, au XY. Et j'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a des gens qui savent, comprennent ce que je dis ou pas? J'ai eu 10 mains qui se sont levées. Non, on ne sait pas ce que c'est. XX, les femmes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'est normal que je vous dise bonsoir, mais de façon génétique. C'est curieux, c'est que quand vous allez au lycée, tout le monde sait. Vous allez voir des personnes plus âgées, et bien ils savent. Pas tous. Donc dans toutes les cellules de notre corps, bien sûr dans la nature, il y en a, dans notre corps, on a des endroits où il n'y a pas de chromosomes. Les spécialistes vont me dire, je sais pas, je pense les hématies, non? Le bleu rouge, il n'y a pas. Hein. Voilà. Ben bon, on va dire toutes les cellules de notre corps ont la totalité des chromosomes. C'est bien ça. À part quelques exceptions. Mais sinon, toutes. Donc on n'est pas XX ou XY, juste entre là et là, par exemple. On est XX ou XY dans toutes les cellules de notre corps. Une cellule, je ne veux pas vous faire un cours sur les cellules, c'est un sac dans lequel il y a un noyau il y a des petits bâtonnets, ben, c'est les chromosomes, ils sont constitués d'un filament enroulé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur lui-même, même peut-être un peu plus. C'est le filament d'ADN. Quelle taille ça a? 10 à 30 microns et l'ADN 10 nanomètres. Donc c'est très petit, je ne sais pas si vous avez fait des microns et des nanomètres aujourd'hui, mais ça fait donc des choses très 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 petite et infiniment petite. Très bien. Donc je les ai fait basculer dans infiniment petit. Une fois que vous y êtes, j'ai trois questions à vous poser. J'utilise un jeu télévisé, comme ça, ça va vous mettre en forme. Hein. Et c'est vous qui allez répondre aux questions que de ce jeu que j'ai détourné, qui s'appelle « Qui veut gagner des millions ?» Et voici la première question. Combien avons-nous de cellules? Alors d'habitude, quand il y a un peu plus de monde, il y a des réponses dans tous les sens qui sortent. Donc le silence se fait parce que j'essaye de faire le silence en me disant « Ah, alors non, je vais donner la réponse. » Mais il se trouve que j'ai mal posé la question, c'est combien de cellules, mais à quel âge? Du coup, toutes les réponses sont bonnes. Parce que ce que je veux faire prendre conscience, qu'au début, on était une seule, avec la totalité de nos chromosomes. Et que aujourd'hui, on est 70 000 milliards de cellules à l'âge adulte, dans lesquelles il y a toutes nos chromosomes. Ah, on enlève les exceptions. Et quand c'est des petits, parce que quelquefois j'ai des plus petits, du style, ouais, quand ils sont en troisième, il y a des petites tailles. Je fais venir à côté, et quand ils sont à moitié, je dis, toi, tu as 37 000 milliards de cellules. Attends un peu, tu vas grandir. Et mais comment vous savez que c'est juste la proportion, quoi. Deuxième question. Combien on en renouvelle par jour à l'âge adulte? Il n'y a qu'une seule réponse. C'est 70 millions de cellules par jour. Vous en avez jeté pas. Hein? Dans lesquelles, on va mettre les exceptions encore de côté, il y a la totalité de vos chromosomes. Ah oui. Heureusement, j'en ai fabriqué autant. À l'âge adulte, ça s'équilibre. Quand je grandis, ben, j'en fabriquais plus que ce que... Expliquer comme ça, la croissance, c'est facile. Hein, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, certes. Mais sur le nombre de cellules, c'est pas loin de... Corrigez-moi hein, si je dis des bêtises. Voilà. Donc, 70 millions de cellules. La question subsidiaire qui n'est pas adoptée là, c'est est-ce que ces cellules intéressent quelqu'un? Qui ça intéresse, ces cellules? Vous avez une idée? Hein?
Des pathogènes.
Des pathogènes, non. Non, quelqu'un, pas des pathogènes. Quelqu'un. Ah, alors souvent, j'ai des réponses, les acariens sont très... Non, 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 j'ai quelqu'un, enfin, quelqu'un une spécialité je sais pas, des êtres humains qui ont une spécialité. Donc après, cogitation, eh ben, j'arrive à la réponse suivante, c'est la police scientifique. La police scientifique est très intéressée par tout ce que vous laissez traîner. Et oui,
ou ils n'arrivent pas, ou je n'ai pas porté le journal d'aujourd'hui, mais quasiment tous les jours, il y a un test ADN par-ci, un test ADN par-là, identification, etc., etc. C'était beaucoup moins le cas il y a quelques années. Ça a permis la résolution, quelques années plus tard, de retrouver le meurtrier ou la meurtrière. Et oui, aujourd'hui, on vit avec ça. Donc, vous laissez traîner la totalité de vos chromosomes. Et la police scientifique est intéressée. Pourquoi elle est intéressée? Ah bon, elle se débrouille avec les empreintes digitales, ça suffit. Pourquoi?
Parce qu'il y a l'identité qui est...
Eh oui! Ils savent que notre code génétique permet de s'identifier, donc il est unique. Eh oui! Voilà. Donc, combien avons-nous de chromosomes? Alors, si vous ne répondez pas à celle-là... Attention, j'ai mis un piège, j'ai mis le D en blanc, mais la réponse est, nous avons 46 chromosomes, 23 qui viennent de notre père et 23 de notre mère. Question subsidiaire. Pour votre culture générale, est-ce que quand on a 46 chromosomes, c'est sûr, on est un être humain? Les scientifiques?
Moi qui lève les yeux, je cherche comment, quoi.
Oui, non? Il y a un doute? C'est sûr? Non.
On peut avoir... Par exemple, aujourd'hui, j'avais une fille qui avait 4 chromosomes X.
Oui.
Donc, si quelqu'un
pourrait. Donc, c'est un être humain quand même. Attends, il faut me rassurer.
Oui, mais si elle avait 4 chromosomes X, elle avait quand même 46 chromosomes. Oui, elle avait 48.
Non, ma question, est-ce que quand on a 46 chromosomes, c'est sûr on est un être humain? Le petit doute qui revient, un chimpanzé, il y en a qui disent ça peut être un chien, ça peut être un cheval, donc ça part, c'est exactement là où je voulais vous emmener. Donc il y a un doute, quand on a 46 chromosomes devant soi, c'est pas sûr que ce soit un être humain. Alors je vais poser la question à l'envers, est-ce que quand on a un nombre différent de 46, là c'est sûr on n'est pas un être humain? Il vous a déjà donné la réponse, il y en a une fille tout à l'heure. Avec 4 chromosomes X, mais la réponse que j'attends, c'est les personnes trisomiques ont 47 chromosomes et ce sont des êtres humains. Vous regarderez dans ce livre, il y a une phrase incroyable prononcée par. Parce qu'on se demande pourquoi il a prononcé cette phrase. Alors, Jérôme Lejeune, quand il a découvert la trisomie 21, il dit à un moment, j'ai fait une découverte antiraciste. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, quoi? C'est quoi? Eh bien oui, tout simplement. Monsieur John London Down, puisque vous savez que ça s'appelle le syndrome de Down en anglais, était de l'époque de Darwin. Je ne sais pas si c'était le copain de Darwin. Voilà. Darwin, théorie de l'évolution. Monsieur Darwin ne connaissait pas le nombre de chromosomes. Mais il avait, alors que ce n'était pas une personne raciste du tout, etc., une conception tout à fait de l'époque. La race blanche est la race supérieure, la race noire inférieure, et une sous-race est mongolien. Jérôme Lejeune, par l'expérience, a dit, mais j'ai devant moi le caryotype, donc les chromosomes d'un être humain. Certes, il y en a un de plus, mais ce n'est pas un chromosome de poireau, je sais pas quoi, c'est un chromosome humain. Donc, cette personne à qui appartient ces chromosomes est une personne, un humain. Donc, il remettait de façon expérimentale, sans aucun doute possible, les Mongoliens dans l'espèce humaine. Et oui, il faut faire avec l'histoire. Voilà. Voilà pour ça. Alors voici pour la réponse pour votre culture générale. L'homme a 46 chromosomes, le singe 48, et voyez qu'ici le lièvre en a 46. Et c'est pas le nombre de chromosomes, c'est pas donc fait pas. Donc vous avez un beau tableau, hein, si vous trouvez ça sur Wikipédia, c'est pas forcément exact, mais c'est assez drôle quand même d'avoir ça. Hein. Voilà. On n'est pas interfécond avec le lièvre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens aux grandes oreilles ce soir. Hein. On n'est pas interfécond non plus avec le singe. Voilà. Alors, le message, eh ben, il est compris sur cette fameuse molécule d'ADN. Hein. Il est, vous la connaissez, je n'ai pas le prix Nobel, Crick et Watson, etc. Je ne vais pas raconter tout ça, vous savez ça par cœur. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est la deuxième moitié du XXe siècle qu'on découvre. Tijo et Levent, un Américain et un Japonais, découvrent le nombre de chromosomes. 1955, donc Darwin ne savait pas.
que dire ben, c'est un filament d'ADN, etc. Les bases, l'hélice, tout ça, je ne vais pas rentrer dedans, hein, parce que ça, vous savez ça par cœur. Simplement, on va parler de chiffres que vous connaissez aussi peut-être, mais chez l'homme, c'est 3 milliards 200 millions de bases, 3 milliards 200 millions de petites marches d'escalier, de ce, c'est-à-dire en colimaçon, coupées en 46 chromosomes, puisqu'on en a 46. Le brin d'ADN, grandeur réelle, c'est 1 mètre, très très fin, dans chacune de nos cellules. Mais ce filament très 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 fin, si on le grossit à la taille d'un fil à coudre, il ne fait plus 1 mètre, il fait 550 km, il fait Paris-Brest, sur lesquels il y a 3 milliards 200 millions de petites marches d'escalier. 3 milliards 200 millions de bases. Si on les prend, on les assemble et on essaye de les mettre côte à côte, et ben, un peu comme des lettres, ça va faire des mots, et puis des mots, des phrases, alors on appelle ça les gènes. Vous voyez comme je résume les choses. C'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, parce qu'il y a des aires mortes, des machins, enfin bon. Je simplifie les choses. 3 milliards 200 millions de bases. Quand vous tapez un fichier Word, là, vous savez, en bas, ici, il y a un petit compteur. Twitter, c'est 140 caractères. Là, c'est 3 milliards 200 millions de caractères pour écrire, Flore, c'est ça? Moi, Olivier, Pascal. Alors, on a des choses en commun, hein. Je pense qu'on a la même séquence, par exemple, pour fabriquer l'insuline, c'est ça? Oui? Non? Si, je pense. On a des choses en commun, parce qu'on fabrique des choses qui sont communes. Mais on a plein de choses différentes. Parce que si tout était en commun, la police ne pourrait pas nous identifier. Ce serait tout pareil. Et donc, il y a des petits malins qui ont dit, bah tiens, on va calculer le nombre de combinaisons possibles d'êtres humains différents. Parce que 3 milliards 200 millions de gènes ou 3 milliards 200 millions de caractères, ça représente quoi? Bah, c'est un gros fichier Word, c'est énorme même. Mais un livre dans une bibliothèque, c'est, je ne sais pas combien de caractères, mais 3 milliards 200 millions de caractères, c'est une bibliothèque grosso modo de 5000 livres contenus dans une cellule. Ça, au passage, c'est une prouesse incroyable. Mais c'est ça. Sauf que les livres, c'est écrit avec A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Et la ponctuation, et ben pour l'ADN, c'est différent. Vous connaissez comment c'est écrit avec 4 lettres, A, T, G, C. Vous connaissez ça par cœur. Or, je ne vais pas aller sur les codons, sur tout ça, parce que je m'y perds, et vous êtes plus fort que moi. Mais on peut calculer le nombre de combinaisons possibles sur les espaces libres, en faisant les combinaisons. Et on trouve ce chiffre complètement fou. Il est là, 10 puissance 2 millions de combinaisons différentes. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir le même code génétique que moi sur Terre, c'est 1 sur 10 puissance 2 millions. Ah, c'est pas 0, mais c'est pas loin. Hein. 10 puissance 2 millions, c'est 10 avec 2 millions 0. Ma soeur, si vous écrivez ce chiffre-là, vous êtes encore là demain matin, vous mettez les 0. Vous voyez? Vous jouez au loto ou pas? Non. La chance de gagner le gros lot au loto, c'est une chance sur 76 millions. C'est 10 puissance, on va dire 9, hein. 1 sur 10 puissance 9, le gros lot, hein. La chance d'avoir le même code génétique que moi sur Terre, c'est comme si je gagnais le gros lot toutes les semaines de ma vie. Ah, c'est pas impossible, hein. Bon, ça m'arrive une fois dans ma vie. Il faut que je joue pour ça, hein. Vous voyez? C'est incroyable. Et donc, il y a quasiment aucune chance qu'il y ait le même code génétique que moi sur Terre. Et la police scientifique, c'est pour ça. Enfin, je pense qu'ils... Ils sont quand même allés creuser le truc pour savoir s'il y avait des chances de trouver le même. Quasiment aucune chance sur l'humanité. L'humanité, c'est combien? Pascal. Monsieur Pascal. L'humanité, on est combien? 7 milliards d'hommes sur Terre. Mais l'humanité, c'est pas 7 milliards. C'est 70 milliards d'hommes, dont 7 milliards de vivants. Et tous ceux qui nous ont précédés. Sur 7 milliards, il n'y a quasiment aucune chance, mais sur 70 milliards aussi. Et on pourrait faire les projections en disant, ouais, peut-être que le Soleil, après, l'astrophysicien, on sait à peu près que dans un tant de temps, il n'y aura plus de vie possible sur Terre, je ne sais pas quoi. On peut peut-être prévoir le nombre d'êtres humains,
pareil, plein de chances de trouver le même code génétique. Sauf qu'il y a des exceptions, comme tout à l'heure. Il y a des endroits où on n'a pas le... C'est quoi l'exception ? Les jumeaux, les vrais jumeaux issus de la même fécondation ont le même code génétique. Et oui, et là la police est embêtée. Et figurez-vous que ça, je ne l'ai pas gardé, mais je me souviens d'avoir lu dans 20 minutes, il y a environ un an et demi, la police qui s'est retrouvée dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'elle a, elle a trouvé les traces ADN, et quand elle, elle a identifié parmi les suspects, mais lequel ? Parce qu'ils étaient des jumeaux. Bon, ça s'est passé à Marseille, les deux ont été mis en prison. Je suis marseillais. Hein. Voilà. Mais ça s'est passé vraiment.
Donc, ce truc-là.
Oui, ils ont le même code génétique, et d'ailleurs l'expression du même code génétique, c'est qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, surtout quand ils sont petits. Après, bon, ils évoluent différemment, mais c'est très troublant. Hein. Vous avez des frères jumeaux ou des sœurs jumelles ? Non. Oui.
Maman est jumelle.
Maman est jumelle. Votre maman ? Une vraie jumelle. Donc, oui. Donc votre tante ressemble à votre maman ? Oui. Elles habitent au même endroit ?
Non.
Pas loin ?
Mais des gens les confondent.
Régulièrement. On ne parle pas quand elles étaient petites. Moi j'ai des exemples dans ma belle famille de deux sœurs jumelles, une qui habite au Brésil et une qui habite en France, quand elles sont invitées à un mariage, elles ont la même robe. Elles ne sont pas consultées. La même robe. Voilà. Bon. Oui, les jumeaux ont le même code génétique. Et si d'aventure le clone arrive, et si ce clone a le même âge que nous, il y a de fortes chances qu'il y ait la même chose, la même ressemblance. Pour l'instant, ça n'existe pas. Ça, le clone humain, s'il existe ou pas. Les scientifiques, là. À ma connaissance, non, mais l'autre jour, on m'a dit si, il y a des clones, mais on ne le dit pas, ou je ne sais pas quoi, j'aimerais bien avoir.
Par contre, il y a des petits dos qui s'attachent, c'est des trucs d'épigénétique, et donc, ça, ce changement de code génétique ajoute de ces groupes, ça provient de l'interaction avec l'environnement. Donc même les deux jumeaux ne sont pas identiques dans le sens génétique, parce qu'il y a des
tout à fait.
Différences épigénétiques.
Oui. Mais oui, c'est comme c'est, tout ça n'est pas statique, tout ce que je vous ai montré n'est pas statique, mais ça vous savez, c'est dynamique. Le chromosome va se déplier, copier, replier, replier, etc. C'est une machine qui marche à toute vitesse, et à chaque fois que ça se plie, ça se redéplie, ça ne se replie pas forcément dans le même sens, en fonction de l'environnement, en fonction du truc. Après, il bon, y a toutes ces... Effectivement, mais il y a de telles parties communes que... C'est pareil, ça fait partie du... C'est à la marge. Hein. Mais c'est vrai, ils ne sont pas totalement identiques. Bon, très bien. Alors, la puissance du code, etc., je continue là-dessus. Ici, là, l'homme et le singe, 48 chromosomes, même si vous avez vu une fille avec 48 chromosomes, parce qu'elle avait 4 chromosomes X, il paraît que ça monte jusqu'à 5. Hein. Il peut y avoir des femmes avec 5 chromosomes X. Elles ne sont pas plus femmes pour ça. Hein. Ça n'en utilise qu'un, toujours.
Combien de sang ?
Hein ?
C'est 100 cas d'écrit, 150.
Je ne sais pas, mais pas beaucoup. Donc moi je m'amuse avec, ça, avec ce, la génétique moderne sur l'homme et le singe. Parce que Darwin ne dit pas exactement l'homme descend du singe, mais il y a un maillon entre les deux, etc. Ici, ce que vous apprenez en génétique, c'est qu'il y a une barrière génétique puissante, il n'y a pas d'interfécondité possible entre le singe et l'homme. Dû au nombre de chromosomes, entre autres. Et c'est fort, c'est puissant. Enfin, quand on n'est pas la même espèce, ben, ça ne marche pas. Alors, si, on pourrait expliquer que l'évolution, ben, il y a eu une mutation. Hein, un singe, au moment de fabriquer ses gamètes, ben, a perdu un chromosome, et donc, du coup, a fait un gamète à 23 chromosomes. Même ça, c'est par exemple pour le singe mâle. Et là, la probabilité est quand même faible, parce qu'une mutation, c'est faible, c'est pas tous les coups, hein, là. Ben, il faut aussi rajouter la probabilité pour un singe femelle. Donc quand vous multipliez deux chiffres très faibles, ça fait un chiffre encore plus faible. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Hein. Et puis il me vient tout de suite à l'idée d'autres probabilités qu'il faut rajouter. Il faut que ces deux êtres se rencontrent. Donc il faut qu'ils soient au même endroit, dans la même forêt. Donc la probabilité qu'ils soient dans la même forêt, voilà. Et si possible, le même printemps. Pas à 10 000 ans d'écart, comme c'est fait souvent dans le... Voilà. Ça, c'est un peu pour un trait d'humour. Mais ça explique qu'il y a une barrière puissante entre les deux. Et bien sûr, quand on dit ça, il y a toujours l'exception. Puisque ici, vous avez qui galope dans nos champs, hein, avec des grandes oreilles, etc. Le croisement, alors que je viens de dire qu'il y a une barrière puissante, il s'appelle comment le croisement, vous connaissez ? Le mulet, oui. Alors le mulet, c'est le croisement de quoi et quoi ? Non, non, l'âne et le cheval, c'est deux mâles. Je le fais à chaque fois, vous inquiétez pas. Donc c'est l'âne et la jument donnent le mulet. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire ça s'appelle comment ? Le bardeau, comme Brigitte Bardot. Donc c'est l'inverse, c'est l'étalon et l'ânesse donnent le bardeau. Alors, mais oui, là ça marche. Ça alors. Et ils galopent dans le pré, etc. Sauf que ces êtres-là sont des chimères génétiques, c'est le terme scientifique pour le coup, et qui sont stériles. Il n'y a pas de descendance. Pourtant, il y a le mulet et la mule, ils ont des appareils génétiques, mais ça ne marche pas. Il y a toujours des exceptions, parce qu'il y a des Anglais qui se sont mis à regarder si des mules et des mulets pouvaient avoir des descendants. Et de temps en temps, il y en a. Très rarement. Il y a une société scientifique, j'ai vu ça sur Internet, qui a répertorié des cas, ça ne se compte pas sur le doigt d'une main, mais presque, de descendants d'un mule. Mais après, le même problème se pose, c'est-à-dire que le descendant est aussi stérile. Voilà. Donc c'est une impasse génétique. Voilà pour votre culture générale, et pour, pas pour égratigner l'évolution, mais pour remettre l'évolution comme une théorie. Juste par l'éclairage de ce qu'on voit aujourd'hui par la génétique moderne. Donc vous avez à côté ici le karyotype, ce qu'a fait Jérôme Lejeune, le travail de Jérôme Lejeune, et tous les généticiens après. Hein. Donc ici vous avez le karyotype d'un homme, XY, non trisomique, mais s'il est comme ça, et c'est la trisomie libre, complète et homogène. 3 chromosomes 21 non liés. Hein? Bon, oui, ça se passe là, ici. C'est un petit chromosome. Et ce qu'on aimerait bien faire, peut-être un jour, c'est ça. Ça marche très bien sur l'écran, mais enfin, c'est très difficile. Sur 70 000 milliards de cellules, si en plus on en refabrique 70 millions, où il y a de nouveau le chromosome. Pour l'instant, il y a des gens qui cherchent là-dessus. On en est très très loin. Très très loin. Par contre, vous avez compris que puisqu'on est en essai clinique sur le reste, sur les inhibiteurs de ce qui est fabriqué trois fois, là, on y est. On y arrive. Voilà, donc ça, c'était pour revenir à la trisomie 21. Mais il faut revenir à 10 puissance 2 millions. Hein. Il faut revenir au côté unique de cet ADN et à la police scientifique qui s'y intéresse. À quel moment notre code génétique a été fabriqué. Aujourd'hui, on le sait très bien, et ce moment, c'est la fécondation. Ni avant, ni après. Alors, on peut ergoter, est-ce que ici, entre le moment où c'est pas encore notre code génétique et quoi, enfin, on parle de... Allez, un laps de temps relativement court. Mais ici, à partir de ce moment-là, le code génétique est fait une fois pour toutes. Voilà, donc ça, c'est des photos, vous connaissez ça par cœur, etc. Tout se joue au niveau génétique à ce moment-là. Je mets à part ce qu'on pourrait appeler la thérapie génique, hein, ceux à qui on va rajouter un gène après, etc., où tout se joue pas vraiment. En fait, c'est vraiment à la marge. Voilà, l'embryon est un être vivant dès ce moment-là. Il est complet, singulier, etc. Mais là, je ne vous apprends rien. C'est ce moment-là qui détermine tout. Quoi. Son propre développement, son organisation, etc. S'il y a toutes les conditions ad hoc nécessaires, donc de température, nutrition, eh ben, cet être-là va se développer. Je vous signale qu'on a toujours besoin de conditions de température, de nutrition et autres. Moi, j'avais trop chaud, j'ai enlevé ma veste. Mais si je prends n'importe lequel d'entre vous, je vais prendre Pascal par exemple, je la mets en maillot de bain au sommet du Mont Blanc, sans oxygène, sans nourriture, durée de vie 3 minutes. Parce qu'elle n'a pas les conditions. Si cet être vivant dans le sein de sa mère a les conditions, il continue. Alors ça, c'est souvent un argument, c'est un simple amas de cellules. Ça, c'est pas ma cellule, c'est pas... Non, ben, la police scientifique, si elle trouve l'ADN, c'est lui qui va mettre en prison, pas moi. Hein. Bon, on enlève la police scientifique. Répondons à l'AMA. Hein. Vous connaissez l'embryologie. Vous allez voir comment je la résume, comme je la massacre aussi, peut-être au passage, pour vous. Vous avez révisé des heures et des heures sur l'embryologie avec la blastula, la morula, le ceci, le cela. Moi, j'ai fait trois phases. Le zygote, hein, la première cellule, et c'est déjà moi. Hein. Ensuite, je deviens embryon, et dès que je ressemble à un homme, je deviens fœtus. C'est pareil pour le lapin. Hein. Au début, c'est le zygote, après, il devient embryon, et dès qu'il ressemble à un lapin, c'est fœtus. Sauf que ce n'est pas les mêmes choses. Alors là, on pourrait dire, effectivement, ben là, c'est un amas de cellules, etc. Sauf que, on sait que l'endroit où est rentré le spermatozoïde oriente la cellule. Pas très visible, mais aujourd'hui on le sait. Une cellule orientée, c'est pas... C'est bizarre, mais c'est comme ça. Là, c'est un stade bizarre pour arriver aux quatre cellules. Et très curieusement, on apprend quasiment dans tous les livres de SVT et les profs de sciences nat apprennent 2 à 4 cellules. Et souvent, quand je dis ça, il y a une prof de SVT dans la salle qui me dit non, monsieur, c'est pas ça. Parce qu'avant, je dis pas que je suis inattaquable, c'est pas le but de... Non, c'est simplement des faits que j'ai décrits tout à l'heure. Point. Ah, mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas exact. Je prends note et j'explique que ici, ce n'est pas un amas de cellules. Pourquoi? Parce que vous voyez que si c'est un amas de cellules, ces deux cellules passeraient à deux tout de suite. Là, il y en a une qui ne bouge pas et qui contrôle la division de l'autre. Il y a donc la définition d'un organisme, c'est des cellules qui interfèrent entre elles. Et bien là, visiblement, il y a interférence entre elles. Alors comment on le sait? Et bien on le sait parce que il y a une technique qui s'appelle la fécondation in vitro. Donc on prend les gamètes de l'homme, les gamètes de la femme, l'ovule, le spermatozoïde, on le met dans la coupelle et on peut regarder et même filmer. Et vous trouvez ce petit film très facilement. C'est un petit gif. Vous voyez, ça c'était moi, ou vous. D'ailleurs, c'est votre image. Il vous manque des photos dans votre album de photos, petit film. C'est vos 48 premières heures de vie. Vous voyez le stade 3 cellules nettes pour arriver à 4. Entre 1 et 4, c'est 48 heures. Vous avez les photos de vous et de votre maman dans les bras quelques heures après votre naissance. Mais ça, vous ne l'avez jamais vu, ce film, peut-être. Ben, c'est vous. C'est moi aussi, d'ailleurs, mais c'est vous. Alors là, la prof de SVT, souvent, me dit, non, et donc là, si jamais elle s'est levée en disant, non, vous racontez n'importe quoi, je passe ce film. Et gentiment, je ne suis pas venu dans les établissements scolaires pour foutre le bazar. Et en principe, soit je n'entends plus, soit elle s'en va. Parce que je lui ai fait perdre la face involontairement, mais elle n'avait pas qu'à faire attention à ce qu'elle dit. Quoi. Voilà, donc l'embryon est un être humain, ben oui, parce que ben, le code est humain, on ne peut pas changer, on ne peut pas devenir... un autre animal, un singe, un éléphant, une drosophile, ça c'est pour le clin d'œil aux généticiens qui aiment bien la drosophile. Donc toutes les analyses biologiques montrent qu'il est humain, aucune montre l'inverse. Donc ben, tout se joue, encore une fois, tout est joué, c'est une continuité totale de ce moment-là jusqu'à notre mort. Oui, il y a différents stades, oui, on apprend la blastula, la morula, etc. Oui, il y a notre naissance, oui, mais c'est une continuité totale. Et qu'on soit conçu de façon artificielle, en éprouvette ou de façon naturelle, l'utérus, on n'en est pas moins un être humain au niveau génétique. Je ne peux pas dire le contraire. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien dit ça, on est d'accord, on est fort, etc. Sauf que là arrivent les philosophes. Il y en a dans la salle des philosophes? Il y en a au moins une. Hein? Qui disent, oui, mais bon, c'est peut-être un être humain, mais ce n'est pas une personne. On peut s'amuser ce soir, sauf que c'est déjà un peu tard. Qu'est-ce que c'est une personne pour vous? Bon, là, on n'est pas beaucoup, mais je suis sûr qu'on a au moins 4 définitions de personnes différentes. Ou pour moi, c'est une personne, bah, une personne c'est quelqu'un. Ah oui, quelqu'un, oui. Quelqu'un, c'est quoi, bah, avec qui on peut rentrer en relation. Qui éprouve des sensations. Enfin, il y a plein de choses différentes que vous allez sortir. Mais finalement, c'est quoi? Bon. Alors, l'embryon est un être humain, mais finalement, je veux dire, tout le monde le sait. La preuve, toute bête, enfin, la preuve, c'est pas une preuve. La fécondation in vitro, au départ, s'appelait le bébé éprouvette. Bébé, c'est même le vocabulaire employé. Le premier bébé éprouvette français s'appelait Amandine. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'a pas eu un enfant. Mais Louise Brown, qui est le premier bébé éprouvette au monde, anglaise, a eu un enfant sans avoir recours à la fécondation in vitro. Ah, il y a quoi? Il y a trois secondes. Oui, tout le monde sait. Les lois de bioéthique, pourquoi on parle de bioéthique? Mais parce qu'on touche à l'homme. Donc c'est pour ça qu'il y a, débat. Enfin, j'espère qu'il y a débat et qu'il y en aura encore. Mais alors, l'embryon est une personne. Alors là on peut... La porte est grande ouverte. Et d'ailleurs, vous allez voir, la définition du CCNE, c'est... Comité consultatif national d'éthique, il dit c'est une personne potentielle. Vous voulez qu'on rentre dans le débat? On peut y aller, hein. Personne potentielle. J'espère que j'ai une personne potentielle, vous aussi. Hein. Si vous n'êtes plus potentiel, ça veut dire que vous n'avez plus de potentiel. Enfin, c'est plus de futur, quoi. Plus de. Pareil, personne en devenir, vous allez voir. Personne progressive, personne en devenir. Tu vois, c'est le même concept. Professeur Jacquard dit ah, en fonction du regard des autres. Il ne dit pas exactement ça. Il dit attention, projet parental. Vous faites l'objet d'un projet parental, vous êtes une personne. Vous n'êtes pas l'objet, vous n'en êtes pas. Oui. Vous voyez, quand vous faites l'inverse, tu... Oula. Ça, c'est pas une définition. Peter Singer dit vous êtes une personne si vous avez les capacités d'être un homme. Vous êtes digne d'être un homme si vous avez les capacités. Si vous n'avez plus les capacités, ben, pas de problème. Vous n'êtes plus un homme, donc on peut vous supprimer, puisque vous n'êtes pas un homme. Il n'y a pas de problématique. Et ça, ça donne une association qui s'appelle l'ADMD, Association pour mourir dans la dignité. Je me demandais d'où ça venait, ça vient de là. Peter Singer dit dignité. Je suis digne d'être un homme. Oui, mais où on met le curseur? Où? On ne sait pas trop. Et puis ça s'applique aussi avant. Si vous n'avez pas encore les capacités, ben vous n'êtes pas une personne, un homme, etc. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler. Et puis je vous posais une question dans l'autre sens. Est-ce que vous connaissez des hommes, enfin des êtres humains qui ne sont pas des personnes? C'est les filles qui vont répondre, c'est les garçons, ils m'ont déjà posé des questions. Donc, filles, non? Les femmes, non? Donc,
c'est subjectif. C'est pas qu'une personne n'est pas une personne. C'est une, mais on part sur les gens qui sont des monstres, est-ce que c'est vraiment une personne?
Ah, vous êtes jeté à l'eau, c'est bien.
Non, une personne, c'est une personne. Ça, c'est beaucoup trop subjectif pour le
point. Est-ce que, alors, je répète, est-ce que vous connaissez des êtres humains qui ne soient pas des personnes? C'est ça ma question. Et vous me répondez, c'est subjectif. Je vous demande un exemple. Un monstre, par exemple.
Précis. Mais un monstre, c'est subjectif même.
Bon. Donc, ça n'existe pas. C'est forcément une personne.
C'est une personne, c'est la définition qu'on a, non, en général.
Moi, j'ai un exemple quand même. Limite, mais un exemple. Les esclaves. Bien sûr, c'est un être humain.
Ah oui, c'est
une personne. Bien sûr. Mais on pouvait les vendre, les tailler en morceaux, les faire... Mais c'est pas... Donc, il y avait toute une partie de ce qu'on met dans le concept personne qui n'était pas là. C'est à la limite. Mais vous voyez qu'on ne trouve pas... Et vous avez bien réagi en disant les esclaves, mais bien sûr, ce sont des personnes, attendez, ce sont des êtres humains, des hommes, des femmes. Bien sûr, attendez, heureusement, je pense comme ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on ne trouve pas d'exemple d'êtres humains, même si on cherche cet exemple limite, des êtres humains, hommes ou femmes, qui ne soient pas des personnes. Et à quel moment on est homme ou femme? Ben, au moment où on a notre code génétique. Ah ben alors, non, c'est plus d'accord. Ben c'est 12 semaines après. Ah ben non, c'est si vous avez une trisomie, c'est jusqu'à la naissance, etc., etc. Vous savez que en cas de trisomie, vous pouvez pratiquer l'avortement jusqu'au jour de la naissance. C'est la loi de 75, de Veil. C'est noir sur blanc, hein. C'est pas nouveau, hein. En cas de... Je vous d'ailleurs, parce que c'est, ça, quand vous lisez ça, vous dites, mais c'est pas possible. Ça correspond pile à la trisomie. L'interruption volontaire de grossesse peut, à toute époque, oui, c'est très clair, être pratiquée si deux médecins attestent après examen et discussion que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme. Ça, on sauve qui, la femme ou l'enfant? Ça, c'est logique qu'on pose ce cas-là. Hein, ça, je ne discute pas de ça. Ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Trisomie 21. Il n'y a même plus de discussion. C'est à chaque fois. Trisomie 21. C'est la loi, article 162.12 de réviser la loi Veil d'or, révisée en 94. Mais ça faisait partie des lois. Parce que la loi Veil a commencé par la loi Perret, qui était d'abord focalisée sur les personnes, comme il disait, mal formées, etc. Donc, là-dessus, dans ce truc bien noir, qu'est-ce qu'on peut proposer, nous? Oui, vous êtes gentil, vous êtes catho, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais enfin bon, c'est bien beau, vous dites des personnes, il faut tout, accepter tout le monde, tout machin, mais la souffrance est horrible. Ok, mais... Donc, puis c'est pas des hommes, et puis c'est qu'à la naissance, ou bien c'est qu'après, ou c'est... On finit... Qu'est-ce que vous avez à proposer, quoi? Moi, j'ai une proposition. Bébête comme d'habitude, parce que c'est beaucoup du... Regardez ça. Si on utilisait ce principe dont on nous a rabattu les oreilles, par exemple, sur les OGM. Les OGM, en France, on ne veut pas en faire, parce que on ne sait pas, dans la nature, ce que ça va faire. C'est organisme génétiquement modifié, et ça va partir... donc, on n'en veut pas. Bon, très bien. On va prendre le principe de précaution, là. Vous dites que c'est pas un être humain quand il est tout petit, dès la fécondation. Ben, pour l'instant, on va prendre le principe de caution, on va dire que c'en est un, et puis si on arrive à la preuve que c'en est pas un, ben, à ce moment-là, on reviendra. Appliquons ce principe de précaution comme ça. On en est loin. Hein. Vous voyez? La juriste. Oui. Alors, la position des religions. Toutes les religions se posent la même question. À quel moment l'âme vient infuser l'être vivant? C'est à ce moment-là qu'on est une personne aux yeux de la religion. Toutes. Vous pouvez... Alors, j'ai besoin de renseignements sur les religions taoïstes, j'ai pas, sur les religions passées égyptiennes, par exemple, ou mayas, ou etc. J'ai des précisions sur la religion musulmane, parce que pour moi c'est imprécis, mais je vais vous donner quand même quelques trucs. Alors, pour la religion juive, l'âme est infusée, vient, à 40 jours après la fécondation. Et je précise, et ça c'est Monseigneur au Petit, qui est maintenant évêque de Nanterre, qui était avant ici évêque auxiliaire de Paris, parce que je l'ai vu en conférence, et il m'a dit, citez-moi à chaque fois, c'est pas un problème. J'ai dit, mais donnez-moi... Non, non. C'est 40 jours pour les hommes, 80 pour les femmes. Pourquoi? Ben, allez voir Monseigneur au Petit, lui a le truc. Bon, voilà. Très bien. Bon, j'allais dire, la religion musulmane, mais chiite, sunnite, etc., je ne sais pas qui est quoi, et ça dépend en fonction des hadiths, etc., je ne sais pas. Mais, 120 jours après la fécondation, il y a du 80 jours. Il y a du 40 jours, et il y en a une partie dès la conception, mais petite en proportion. Alors ne me demandez pas qui est quoi, et d'ailleurs j'ai besoin de ce renseignement. Pour la religion catholique, vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, c'est très clair, l'embryon est considéré comme un homme dès la fécondation. Une nuance, est considéré comme. Excusez la nuance. Pour la religion romaine, vous savez, la religion romaine, il y avait les citoyens romains et il y avait les esclaves. Pour le citoyen romain, je ne vais pas parler des esclaves, parce que ce n'était pas des hommes, donc on ne va pas en parler. Mais le pater familias, à la naissance, prenait l'enfant, donc c'était après la naissance. S'il le prenait au-dessus des épaules, il était citoyen romain, sinon il le posait et il était mangé par les oiseaux, etc. Donc ça se passe bien à ce moment-là. Paraît-il qu'il y a des tribus africaines, c'est au rite d'initiation qui est à 12 ans. Oui. Avant, on est... on a un statut enfant, on n'est pas être humain. Donc, oui, à quel moment, c'est la même question, à quel moment donc l'âme vient infuser l'être vivant. Si vous avez des renseignements, sérieux, hein, je suis preneur. Ma sœur, vous collectez les informations si jamais il y en a qui me les donnent. Hein. C'est comme ça que j'en aurai d'autres. Voici une phrase célèbre de Mère Teresa prononcée à l'ONU, hein, devant des chefs d'État. Elle a eu le courage de dire « Comment espérer vivre en paix si vous n'acceptez pas les plus petits d'entre vous ?» Et là, vous avez la maquette des pieds d'un enfant à 12 semaines. Je précise bien que c'est une maquette. Dès la conception, effectivement, l'harmonie est un être humain. Oui, ce serait quand même un peu gros. Alors, voici les trois clés que je vous ai promis tout à l'heure. J'ai promis trois clés, voilà. Alors, la clé verte va nous rassurer. On va l'essayer, on va le dire, ça va nous renseigner. Les deux clés rouges, attention, c'est des alertes. En prenant la première clé, c'est la clé plomberie, vous voyez, ce mot simple. Tout ce qui va dans le sens du soin, du traitement, de la vie, etc. Où je remets un cycle hormonal en route, je rétablis aux réparations tubulaires, etc., etc. Je n'ai pas passé sur toutes les opérations possibles imaginables, y compris sur l'enfant à l'intérieur du ventre de sa mère, où on peut opérer aujourd'hui, on peut refaire des parois cardiaques, souvent chez les trisomiques, etc., etc., etc. Ça, c'est une clé plomberie. Et la plupart du temps, il n'y a pas de question éthique. Parce que ça va dans le sens de la vie, du soin, etc. Deuxième clé, c'est la clé parent. Si dans la technique en question, on remplace le père, la mère, ou les deux, ou l'on met, où il y a les deux et on en rajoute un tiers, ou etc., etc., attention, il y a un problème éthique quelque part. Et il faut se poser les bonnes questions. Vous connaissez une technique peut-être qui s'appelle les cibrines, ça vous dit quelque chose, non? C'est les Anglais, souvent c'est les Anglais qui demandent les autorisations. Il y a des chercheurs qui sont sur tout ce qui est fécondation in vitro, donc s'intéressent à savoir comment ça se passe au moment de la fécondation, essayent de créer des embryons, enfin, etc., etc. Le seul problème, c'est que les cellules féminines sont peu disponibles. Les cellules masculines, il y en a plein. C'est génétique, ben, les gamètes. Les cellules, il n'y en a pas. Pénurie. Ou presque. Par contre, l'autre, il n'y a pas. Il y a. Ben, ils ont demandé l'autorisation d'utiliser un ovule de vache, dans lequel on enlève le génome vache, et on met, voilà, mon génome, si on veut faire mon clone, etc. Ils ont eu l'autorisation, hein. Et donc, aujourd'hui, il y a quelques hybrides, jusqu'à un développement de je ne sais pas combien de cellules, et voilà. Être dans cette technique, non seulement on remplace le père, la mère, mais on met la vache au milieu, quoi. Vous fait rire, mais je fais exprès, parce que c'est tellement gros qu'on est obligé de sourire. Mais, donc, cette clé parent, attention, si c'est... Il faut se poser la bonne question. Une fois que vous êtes posé la bonne question, après, vous pouvez vous positionner. Il faut dire, bon, moi, dans ce cas-là, est-ce que je... Ouais, je comprends qu'on met un tiers, mais... bon, mais c'est de votre responsabilité. À vous. Moi, j'ai une opinion, bien sûr. Mais ça sera à vous, la forger. Mais pour la forger, il faut se poser la question. Si c'est oui, la fécondation in vitro, c'est la panacée, pas de problème, allez-y. Non, non, non. Il faut se rendre compte que... Voilà. La clé aux dépens, elle est... Mais je vous l'ai expliqué. En une petite histoire. Imaginez que je sois très malade. J'ai besoin, pour survivre, d'une greffe de rein. Parce que j'ai mes reins qui ne fonctionnent plus, etc. Pour ça, il faut que j'ai un donneur compatible. Il se trouve que le donneur compatible dans ma famille, c'est ma sœur. Voilà, mon histoire. Je vous rassure, ce n'est pas vrai, je ne suis pas malade des reins. Trois cas possibles. Ma sœur est très gentille. Elle revient spécialement du Bénin, où elle est laïque consacrée, infirmière dans la brousse, etc. Ça, c'est vrai. Hein. Et elle me dit, bah, je vais faire opérer, je te donne un rein. Imaginons que ça soit ça. Je suis sauvé.
ma vie continue, elle peut vivre avec un seul rein, parfait. La clé ne fonctionne pas, la clé aux dépens ne fonctionne pas. Deuxième cas, je sais qu'elle va se faire opérer l'appendicite, je vais voir le chirurgien en disant, disons, pendant qu'elle a mangé, machin, etc., tu prends un rein, et tu me... Oui, là, avec tes lettres rouges, sérieux. Troisième cas, je tue ma soeur, tant qu'à faire, je me fais greffer les deux reins. Vous voyez ? La clé aux dépens, c'est ça. Eh bien, il y a des techniques où, eh bien, ça se fait aux dépens de la vie des autres. Si je regarde, par exemple, un des volets, comme je vais utiliser, par exemple, la fécondation in vitro, je vais utiliser les trois clés. À chaque fois, j'utilise les trois clés. Clé plomberie, ben oui, il y a une clé plomberie, on fait, parce que il faut faire au niveau hormonal, etc., il faut trouver, remettre en route chez la femme. Ici, on va remplacer le père, la mère ou les deux, ben oui, on rajoute des gens qui vont manipuler les gamètes, etc., même si c'est les gamètes des parents, ben, oui. Donc elle est rouge. Mais on va se déterminer, on va répondre aux questions, moi on s'est posé des questions. La clé aux dépens. Ben, il y a forcément aux dépens. Mais non, il n'y a pas aux dépens. Mais si, parce que pour un bébé qui naît, il faut en fabriquer 14, à peu près. Qu'est-ce que deviennent les autres? Il y en a une partie qui est congée, une partie qui est éliminée. Et c'est ça la clé aux dépens. Ah, et si je tue ma soeur pour prendre mes reins, c'est aux dépens, ça, c'est sur le plateau. Voilà, donc allez voir génétique.org et je vous ai apporté quelques bonus sur, par exemple, le don de gamètes, la gestation pour autrui, l'aide médicale à la procréation en Europe. Alors, c'est pas tout à fait à jour, mais vous me ferez grâce. Alors, voici. Le don de gamètes, vous savez, en France, il est, que ce soit don de spermatozoïdes ou don d'ovules, anonyme et gratuit. Comme le don du sang. Anonyme et gratuit. Et bien, il y a des pays où c'est non-anonyme, c'est-à-dire vous connaissez le donneur ou la donneuse. On s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. C'est-à-dire que la juriste va dire, mais moi, j'ai mon père biologique, ma mère biologique, surtout si ça s'appelle Steve Jobs, peut-être que voilà, enfin j'en sais rien, hein. Voilà. Non anonyme. Voilà les pays. Le don peut être rémunéré. Voilà les pays. La gestation pour autrui, voilà les pays. L'AMP, l'aide médicale à la procréation pour les femmes célibataires, voilà les pays. L'AMP post-mortem, c'est quand le conjoint est mort. Hein, avec de. Donc. Et les, pour les femmes homosexuelles. Or, il y a des pays qui ne font pas partie de l'Europe. Hein. Israël, ici. Il a tout, hein. Ici, c'est la Belgique. Attendez, mais il m'en manque un, voilà. Ici, c'est la Belgique. Là, c'est la Hollande. France, il n'y a rien. Angleterre. Espagne, il y a ça. Portugal, il n'y a rien. Italie, il n'y a rien. Suisse, il n'y a que ça. Ben, là, j'ai vu des gros dessins. On a l'impression que c'est partout hors d'Europe. C'est pas vrai. Hein. C'est que, on vous dit on est très en retard, etc. Oui, il y a des pays qui sont qui ont mis ça bien avant nous. Mais il y a des pays qui sont aussi derrière nous. Hein. Et ça, on ne le dit jamais. On présente toujours de la même façon. Dans le monde, ça donne à peu près ça. Hein, en dehors de l'Europe, pour les mêmes items. Voilà. Vous voyez ici aux États-Unis. Voilà. Alors, Italie, il n'y a pas de don de gamètes du tout. L'Italie, c'est vraiment un pays arriéré, alors ben, je n'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas. En France, don anonyme est gratuit. En Allemagne, non anonyme. Au Danemark, vous choisissez son catalogue. En Espagne, j'ai même trouvé les tarifs. Or, les hommes, on a un risque moins important que les femmes. Les femmes, le vol d'ovocytes a déjà commencé. Il y a déjà eu des gens au pénal qui ont été condamnés. Pendant des opérations, des femmes qui se sont fait voler des ovocytes. Quand je dis ça, ça fait froid dans le dos. Enfin, on dit c'est pas possible. On y est. Hein. Alors, la gestation pour autrui, eh ben, en France, c'est interdit, même si le débat recommence, etc. En Hongrie, c'est autorisé. Voilà la condition. C'est-à-dire que la femme qui ne peut pas avoir d'enfant va demander à la mère, à sa mère, de porter l'enfant ou à sa sœur. Sinon, c'est interdit. C'est la loi comme ça. Ben, en Israël, c'est autorisé uniquement au couple juif, et si la mère porteuse est juive, ça c'est pour les raisons religieuses, puisque la religion est transmise par la mère.
C'est-à-dire que les couples arabes, israéliens mais arabes, non. Okay. Aux États-Unis, eh ben, il y a même des agences avec des mères porteuses, des traducteurs, etc. Il y a $150,000 pour avoir un enfant, dont $30,000 pour la mère porteuse. Et il y a aussi d'autres pays. Vous avez eu un truc qui s'est passé à Paris qui s'appelait One of Us, un de nous. Vous connaissez peut-être, et donc celle qui a eu le prix de Un de nous, c'est une qui a fait la une de la lettre de la Fondation Le Jeune l'été dernier. C'est une femme thaïlandaise qui était mère porteuse de deux enfants, de deux Australiens, deux messieurs australiens qui avaient commandé des enfants, et un des enfants qui était trisomique, et ils n'ont pas voulu. Voilà, et c'est elle qui l'a adopté. Ça fait le tour du monde, cette nouvelle. Mais nous, on était... Et donc, on l'a invité en France pour recevoir le prix de ce congrès où on était donc, bien sûr, en pleine minute. Voilà. Quelques films pour la partie génétique. Si vous n'avez jamais vu ce film, qui est un vieux film, il doit avoir au moins 10 ans ou 12 ans, vous verrez Uma Thurman, qui est encore très jeune, Ethan Hawke aussi. Un film qui pose vraiment le problème génétique. Regardez-le. Qui l'a vu? Personne. Dommage. D'habitude, il y a toujours au moins une personne qui l'a vu. Ma sœur. Non? Alors, j'aurais posé la question. Si vous l'avez vu, c'est un film de science-fiction. Il n'y a pas beaucoup de rayons laser, ni, ça n'a rien à voir avec Star Wars. Hein. Il y a un ou deux vaisseaux spatiaux qui décollent, mais pas plus. Je dis, mais où est Gattaca? Bienvenue à Gattaca. C'est où Gattaca? Mais ben, c'est un film de science-fiction, on ne sait pas où c'est. Mais il est malin. Gattaca, c'est ATGC, c'est les bases de l'ADN. Voilà. Ah, mais c'est pour ça, c'est sympa aussi. Et un autre film qui est plus récent, vous avez peut-être vu, qui s'appelle The Island. Pareil, ça pose le problème génétique, c'est bien vu. Et ça n'a rien de cateau, de tout ce qu'on veut, etc. Mais ça pose le problème génétique. Voilà. Alors le bonus du bonus, lui, est... religieux. On est dans un endroit spécial, je suis devant la croix du Christ, vous êtes rassemblés sous sa bannière. Je n'ai pas beaucoup parlé de lui, pas du tout, parce que je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas médecin non plus, mais je vous ai fait préparer un bonus sur le côté religion catholique. Parce que même quand on discute avec les catholiques, souvent on dit mais non. La vie ne commence pas là, et comment, et quoi, là, c'est une interprétation, c'est ceci, c'est cela, c'est marqué nulle part dans les textes, c'est une interprétation de l'Église, Saint Thomas, ou je ne sais plus qui, ou Saint Augustin, pensait que c'était que 40 jours après la fécondation. Oh, les discussions qu'on ne finisse plus, quoi. Alors, il m'est venu une idée, c'est la mienne, que j'ai faite avec le docteur Bléau, et je vous la propose. Alors, voici ce que je vous propose. Vous connaissez deux lectures, parce que c'est les piliers de notre religion, l'Annonciation et la Visitation. Bon, jusque-là, vous me dites, où est-ce que c'est marqué? Je ne vois pas bien. Voilà. Par contre, vous avez un très joli tableau de Fra Angelico, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu d'ailleurs à Florence, ceux qui l'ont vu, c'est magnifique, mais là, je vous la représentation. Et c'est superbe ce tableau. Vraiment, il est connu dans le monde entier. Et Fra Angelico, franchement, il a une liberté, il a pris un droit, il a fait quelque chose que je vais faire ce soir. Pas sur le côté pictural. Mais Fra Angelico, il s'est permis de représenter cette scène, non pas comme elle s'est passée, mais il l'a représentée en 1450. Ça, c'est l'architecture 1450, les habits 1450, etc. Tout est 1450. Eh bien, je vais faire la même chose. Imaginez, donc, nous sommes en 2016. Marie a, je sais pas, 15, 16 ans, 17, 18, peu importe. Ben, commençons, les jeunes femmes, sortir dans la rue, vous les voyez, donc, je vais les faire, elles ont peut-être un truc à capuche, un iPod, un jean, etc., Et là, il y a un super beau mec, tout en blanc, avec des ailes dans l'eau, plap, 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 il ça arrive, il atterrit juste devant elle, paf, comme ça. Il fait « Salut Marie !» D'ailleurs, c'était bon, hein, « Salut Marie !» Elle a laissé des écouteurs, ouais, « Check, paf, paf, salut Marie !» Elle regarde, hein. Elle dit « Tu sais, tu vas avoir un enfant, tu appelleras Jésus, sera sauveur du monde. » Elle dit « Vas-y, va, c'est pas possible, j'ai pas de mec !» C'est là qu'elle lui répond, grosso modo, hein. Elle dit « Non, non, t'inquiète pas, le Seigneur te couvrira, on peut reprendre les vraies paroles, etc. T'es d'accord ?»« Oh, ouais, je suis d'accord. » Elle va pour remettre ses écouteurs sur les oreilles, lui, pour décoller. Il dit, hey, tu sais ta vieille cousine, celle qui ne pouvait pas avoir l'enfant, ça y est, elle est enceinte. Et flap, 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 il décolle. Ça, c'est l'annonciation. Aujourd'hui, fait de la même façon que Jorge Rico, 1450. Deuxième lecture, l'invitation. Pareil, il a tout représenté à 1450, architecture, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ben, aujourd'hui, Marie est toujours le même âge, elle va voir sa cousine Elisabeth, qui attend son premier enfant, et elle était beaucoup plus vieille qu'elle. Mais c'est sa cousine. Vous avez des cousines, vous? Oui, je suppose. Ça n'a pas changé. 1450 ou avant, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez votre cousine? Ah bien, bien, bien. C'est pareil, elle faisait ça. Donc, elles vont pour parler parce qu'elles s'aiment beaucoup. Enfin, voilà, voilà. Elles vont pour tomber dans les bras l'une de l'autre. À ce moment-là, Elisabeth dit stop. Alors, Marie, pourquoi stop? Elle avait toujours son iPod sur le dos. Regarde, je suis enceinte. Je dis, ouais, je sais, le mec en blanc, plap, plap, il m'a dit. Mais regarde, il tressaille d'allégresse. Il devait faire une java, le Jean-Baptiste, dans tous les sens, des coups de pied dans le ventre, etc. Et ça, alors. Mais pourquoi il faisait une java comme ça, Jean-Baptiste? Parce qu'il saluait Jésus-Christ, sauveur du monde, qui était présent dans le ventre de Marie. C'est ça que ça veut dire. Ah. Bon. Alors maintenant, j'ai quatre questions, et voilà. Quel âge avait Jean-Baptiste? Quand la Vierge Marie est-elle enceinte? Quel âge avait Jésus? Pourquoi le Magnificat à ce moment-là? J'ai fini. J'attends la réponse. Alors, c'est bien la première réponse, je vous l'ai mis au tableau. Hein. Quel âge avait Jean-Baptiste? Dans le texte même. 6 mois de grossesse. Alors, j'ai pas l'explication, peut-être que vous l'avez, ma soeur, mais moi, j'ai pas l'explication. J'ai posé à d'autres prêtres, ils l'ont pas forcément. Mais il y en a un qui m'a donné une explication que j'ai pas retenue. Et parce qu'il fallait bien que. J'ai pas compris, j'ai même pas retenu, donc c'est pas évident. C'est curieux, quand même, dans un texte religieux, elle en est associée. Bon, elle est enceinte, point, quoi. Non. Ah non, non, 6e mois. J'ai pas la réponse. Si vous l'avez. Et qu'elle est moins fumeuse que le prêtre qui me l'a donné, que j'arrive à la retenir, je la ressens. Voilà, donc Jean-Baptiste avait 6 mois de grossesse. Oui, parce que c'est la même histoire. Hein. L'annonciation et l'invitation, c'est le même texte. C'est pas. On les lit à des moments différents, mais c'est le même texte. C'est l'ange d'école, flap, flap, avec ses ailes, et la suite, c'est. C'est quoi? Ben, c'est ça. Hein. Et en ces jours-là, Marie se mit rapidement en chemin vers les montagnes de Judée. Donc elle part tout de suite. Et on sait où habitait Marie Nazareth, on sait où habitait Anne Ein-Karem. Il y a 144 km, vous faites Google Maps, ça vous donne les distances et tout. Il y avait donc 3 à 5 jours de marche. Donc Jésus avait 3 à 5 jours de conception. Et après, on va dire maintenant, bon, jusqu'à 12 semaines, peut-être que. Non, c'est pas un homme avancé à Namathé. Le film tout à l'heure que je vous ai présenté, le fameux film de vos premières 48 heures de vie, il y en a 3 jours. 48 heures, c'est 2 jours, 3 jours. Et tout ça, c'est marqué dans les textes. On décrypte un peu, et puis il n'y a pas grand-chose comme décryptage. Hein. Voilà, excusez-moi d'avoir égratigné la personnalité de Marie, c'est pas dans ce sens-là que je le fais, c'est juste pour. Ben voilà. On le voit différemment maintenant. Enfin, moi, je le vois différemment. Alors, le Magnificat, il faudrait que ça soit une femme, parce que ma question sur le Magnificat, elle est là, là. Bon, ça, c'est une interprétation. C'est pas dans le texte du tout, mais c'est une interprétation du personnel. Non, avec le docteur Bléon, on en a parlé souvent, mais. Pourquoi ça serait une femme qui devrait le dire à ma place? Magnificat, c'est vraiment la prière incroyable. Vous allez me dire, oui, il est inspiré des psaumes avant, enfin, certes, mais enfin, là, c'est Marie. Mais avec Christ, notre Sauveur qui l'a dit, et elle aurait pu le dire, je sais pas, à Cana ou je sais pas quoi. Non, là. Pourquoi elle le dit là? D'abord, Élisabeth s'adresse à elle. Je salue Marie, bon, je vais bénir toutes les femmes. Et elle répond au Magnificat. Mais pourquoi? Alors je fais l'hypothèse qu'elle a été préparée pour ça. Le beau gars avec les flap-flap, il atterrit, il demande son accord. Il dit t'es d'accord, ouais. Et elle, dans la confiance totale, ouais, ben ouais, je fais confiance à Dieu. Et tellement confiance qu'elle ne sait pas quand ça va venir. Ça, c'est l'hypothèse que je fais. Et qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, quand c'est Élisabeth qui lui dit. Là, elle comprend, parce que sinon, Jean-Baptiste n'aurait jamais fait la Jabbat. Voilà. Moi, j'ai 4 enfants. Mais c'est vrai que c'est ma femme, à chaque fois, qui m'a dit, ah, là, je pense que... On attend un enfant. Il y en a un qui est au ciel, sur les 4, il y en a un cinquième qui est au ciel. Eh bien, c'était à chaque fois la même chose. C'est elle qui m'a annoncé. Il y a un moment, elle, vous savez, par des changements corporels, enfin, je ne sais pas quoi, c'est rare à 3 jours. Hein. Voilà, ou 5. C'est pour ça que ce serait mieux que ce soit une femme qui raconte comment cette partie-là. Bon! Ben, c'est pas comme ça. Maintenant, il faut aller manger. Hein? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez vu, c'est du basique que je vous ai donné. Hein. Ça va de la maths cellule à ça. L'annonciation et la visitation, moi, ça me renverse. Parce que c'est vrai que je ne le voyais pas du tout comme ça. Non, mais du tout. J'ai dit, ouais, l'ange qui arrive, enfin bon, c'est assez extraordinaire. Pourquoi? Je n'ai pas vu comme ça du tout. Et cette image-là, là, ça n'a rien de frangélico, elle me parle. Sauf que les deux bébés, ils ont à peu près la même taille. Enfin, bon, c'est pas vrai. Bon. Il est interne en médecine, c'est petit ou pas c'est petit? Ça vous va? C'est bien, merci. Bon.
Dans le Magnificat, on a aussi un... détail très beau, c'est qu'elle emploie deux verbes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et donc elle parle d'âme et d'esprit. C'est-à-dire que la personne humaine, c'est pas seulement un corps et puis une âme dans le sens de ce qui l'anime. Parce que les animaux sont aussi
animés.
Les êtres vivants sont aussi animés. Parler beaucoup de la conception et de ce que les parents transmettent à leurs enfants par les gamètes, hein, ce patrimoine génétique, mais qui est le corps et l'âme, mais l'esprit, c'est au moment même de cette fécondation, de la conception, que l'esprit est infusé par Dieu, et donc il y a un acte créateur, hein, il y a la foi, un acte. L'évolution qui est due à la transmission par les parents du psychosoma, du corps de l'âme, mais Dieu agit au moment même de la conception en créant un esprit qui vient assumer le psychosoma, c'est pour ça qu'on a une personne humaine et plus animale à la ressemblance de Dieu.
Ah, c'est magique. Enfin, magique. Bon voilà, donc là, je vous ai mis une phrase, une lettre reçue à la Fondation Le Jeune, vous voyez, sur la fécondation du trou, d'une maman. On sort de la partie spirituelle, on vient sur le truc terre à terre.
Et on vous dit un grand merci,
oui.
Et puis donc d'avoir préparé à notre attention. Hein, et merci de nous laisser, donc, on pourra le revoir.
Bon, derrière, vous avez ça. Je vous ai mis, il y a d'autres slides dont je ne me suis pas servi sur les problèmes éthiques sur la fécondation in vitro. Il n'y en a pas qu'un, moi j'en ai listé 9. Le recueil, c'est déjà problématique. Les ovocytes, enfin non congelables, aujourd'hui, on peut les congeler, on peut les vitrifier. Il y en a encore peu qui sont faits, mais on peut passer ce cas-là. L'ICSI, c'est un problématique. Le fait de injecter de force un spermatozoïde dans l'ovule, ça veut dire qu'il faut avoir choisi le spermatozoïde avant. Voilà. Voilà. Hein. Ça, je vous le laisse. Ça, c'est les choix. Après le petit film, vous savez, vous êtes au stade 4 cellules et après plus, il va falloir que le biologiste décide de ceux qu'on remet dans le ventre de la mère, ou ceux qu'on met au congélateur, ou ceux qu'on détruit. Et voilà ce qu'il voit sous le microscope. Et là, il faut se mettre dans la tête de celui qui fait ce travail. Alors, c'est aidé, mais il y aura la destruction. C'est-à-dire qu'on met à la destruction un code génétique qui ne se reproduira plus jamais sur Terre, etc., et de façon volontaire. Ce n'est pas sa vie, même si elle est courte, elle peut être courte, mais là, elle a été interrompue, très clairement. Et après, lequel on met au congélateur, la plupart du temps, on dit, il a parlé de la destruction, ça nous arrange. Le A, on va le mettre dans le remettre dans le ventre de la mer, et on va... Et bien c'est l'inverse qui se passe, parce que comme le A se congèle mieux, en principe c'est le A comme on congèle. C'est juste des trucs que... Ça se passe sous la loupe binoculaire. Hein. Voilà, les embryons sont numéraires, ben oui, combien... Vous voyez, ça c'était des chiffres, combien il y en a qui sont créés, combien il y a de naissances par an, ça c'est... Alors les chiffres on les trouve plus bien maintenant, mais il faut se plonger dans l'agence de biomédecine pour trouver ces chiffres-là. Bon, ça, c'est les listes des objections sur les cellules. Je vous laisse tout ça derrière. Le rapport, c'est 1 sur 17, 1 sur 14. Quand on fait le rapport, 14 000 naissances sont 734 embryons créés. L'Italie, il n'y a pas de fécondation in vitro, puisqu'il n'y a pas d'ovocytes gamètes. L'Allemagne a écrit aussi dans sa loi pas de stock congelé. Il y a fécondation in vitro, mais dès qu'on fait un embryon, on le réimplante dans le ventre de la mère. Ou on le détruit tout de suite, mais il n'y a pas de stock. Pourquoi ils ont écrit ça? Pas pour des raisons religieuses, parce qu'ils sont encore traumatisés par Hitler. Ils ne veulent pas, avoir dans les frigos, hein, de façon légale, ils ne veulent pas avoir de petits Allemands disponibles pour un prochain Führer. C'est ça qu'ils ont écrit. Alors, on va se protéger. Voilà. Ah, donc vous trouverez ici, il y a plein d'autres choses, il y a des blagues. Donc ne tenez pas forcément compte des autres. Merci beaucoup.
Merci à vous.